Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Les mecs que je veux ken. Aujourd'hui, je reçois le comédien Johan Cuny, ayant inspiré le personnage de Malo dans mon livre. Vous le connaissez peut-être des vidéos YouTube Yes Vous Aime. Il est aussi un récurrent de Brout, aux côtés de Mustapha Benaïbou, que j'ai déjà reçu, et de Pauline Clément et Bertrand Huskla, dont on parle un peu à la fin. Quand on dit Bertrand, il s'agit de Bertrand Huskla, ce sont des amis. Je vous ai souvent parlé de Johan depuis 3 saisons, parfois à demi-mot, parfois en bipant son prénom. Il s'agit de mon grand amour de jeunesse et du seul gars avec qui j'ai vraiment réussi à être en couple longtemps. C'est le dernier mec de cette saison 3, puis pause du podcast au mois de mai, et reprise des festivités à partir de juin avec les meufs. Cela me paraît une bonne boucle, du premier épisode de 2022 avec mon éditeur Laurent Beccaria jusqu'à Johan aujourd'hui, Johan si présent dans mes pages. Johan qui est un acteur et vous avez beaucoup apprécié les épisodes récents avec les acteurs Valentin de Carbonnière et François de Brouwer. Il se différencie assez de ceux avec les humoristes, même si vous m'avez aussi beaucoup parlé des épisodes avec Monsieur Poulpe et Guillaume Meurice. De manière générale, vous passez assez facilement d'épisodes avec des invités connus comme Pablo Mira ou Charles Soignon à des épisodes très intimes, les plus intimes étant ceux avec ma famille, mon père, ma mère, ma sœur, et ceux avec les ex, Michael, puis Johan maintenant. On a enregistré chez moi, à Bagnolet, j'étais très émue. Je ne ferai pas d'outro, l'épisode se finira avec les derniers mots de notre discussion. Je vous embrasse bien fort. Bonne écoute.
Là, on enregistre.
Enregistré.
Ouais. La chaise, ça va?
C'est ça, essaye de rester le plus fixe possible, de bien, en fait, faut...
Ou je peux prendre autre chose? Non, peut-être pas.
Ouais, ça sera pas très pratique. En fait, ce qu'il faut surtout, en fait, Johan, c'est que tu parles bien dans ton micro.
Ah, faut que je me mette comme ça?
Ouais, c'est parfait. Parce que comme ça...
Attends, mais ça va tout le temps bouger.
Attends.
Attends, mais je pense qu'il faut que je prenne autre chose.
Un, deux. Voilà, là, c'est bien. Là, c'est
ça
bien.
Ça va tout le temps bouger.
C'est vrai?
Ah ouais, ça va tout le temps bouger. Je vais bouger. T'as pas d'autre chaise?
Mais non, j'ai pas d'autre chaise. Si je te mets mon fauteuil, tu seras trop
et
bas.
Et ça, les petits trucs, on peut pas s'asseoir dessus? Et les chaises de jardin?
Tu veux qu'on enregistre dehors au soleil?
Non, mais...
Il y a des travaux, en fait, dehors, c'est pour ça.
Ah bah voilà, c'est
la... C'est la même chaise,
ouais,
non?
Elle craque beaucoup moins.
Ah ok, d'accord, très bien.
Franchement.
Ah ouais.
Ah ouais, elle craque.
Au moment où t'as dit ça, t'as fait une petite danse des fesses sur la chaise.
Et je suis obligé de mettre le casque?
Ça te dérange?
Parce que c'est d'entendre...
Le retour? Non, mais c'est bien, ça crée une bulle.
D'accord, ok.
Johan, c'est un moment important pour moi dans le podcast. Mon grand amour de jeunesse, Johan, dans Les mecs que je veux ken. Johan, dont je parle souvent quand je dois évoquer les souvenirs du couple, car on est restés 3 ans et demi ensemble, et après ça a été plus compliqué pour moi. Johan qui est Malo, l'un des personnages principaux de mon livre. J'avais fait lire les épreuves avant publication à Johan. Je m'attendais à ce qu'il soit vexé par certaines choses, mais pas du tout. Johan m'a complimenté et donné la liberté de maîtriser mon récit, et notamment le récit de notre vie amoureuse et intime. J'avais même d'autres pages sur nos vacances, qui ne sont pas dans la version finale du livre, mais je vais lire les premiers mots pour décrire Malo. J'ai choisi un prénom breton, court et joli, et Malo, pour un peu Malo, cœur, de t'avoir perdu. Un temps comme amour et comme ami, mais on se retrouve à l'occasion de ce podcast, et comme je le dis à la fin du livre, je t'aimerai toute ma vie. Le texte. Je travaille une scène dans Roberto Zucco de Coltès et c'est comme ça que je fais la connaissance de Malo, en jouant sa mère. Malo était le plus jeune et le plus doué de la classe, celui dont la personnalité d'acteur était la plus évidente. Il avait 17 ans et ressemblait déjà physiquement à ses idoles, Gérard Philippe, Fred Astaire et Jim Carrey. Il avait un beau visage, mais son front immense lui donnait un air de la créature de Frankenstein, mélangé à la tête de Tarantino. Étrange, beau. Il grignotait ses ongles, mangeait sa peau, s'écorchait littéralement l'index. Il s'arrachait les cheveux aussi, il suait beaucoup, riait. Malo avait une folie innocente, une grâce. Il dansait en sautillant de façon très drôle et originale, comme s'il avait regardé 100 fois des vidéos de danseurs de claquettes sans jamais prendre un seul cours. Malo était extrême inverse de moi. Il savait faire semblant, semblant d'être poète sans avoir jamais lu de poésie. Je ne tombe pas tout de suite amoureuse de lui. Merci, Johan, d'avoir accepté de venir dans mon Merci. Podcast. En plus, c'est pas vrai, t'avais lu de la poésie.
Oui, non, mais je suis un bluffeur, oui, c'est vrai.
Bon, en même temps, est-ce que c'est pas ça la définition d'acteur ?
Oui, oui, c'est un peu vrai, ouais. C'est un peu ça. Il faut... C'est un peu ça, oui. C'est pas que, mais un peu, c'est vrai.
Bah oui. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait quand même apaisée en étant en couple avec toi, c'était... De moins dire tout le temps la vérité à tout le monde, d'être moins violente, quoi.
Oui, oui. Oui, non, il n'y a pas besoin, mais c'est marrant ce que tu dis sur... est-ce que c'est pas un peu ça, être bluffeur ?
Ouais.
Dernièrement, je me suis dit qu'en fait, il y a plein de défauts, enfin de vérités un peu... comme ça, un peu toutes faites sur ce métier que j'ai entendu il y a très longtemps, quand j'étais un jeune comédien. Et souvent, on est un peu énervé contre ça. Vous êtes des putes, vous êtes des bluffeurs. Et t'es un peu là, non. Et en fait, c'est vrai que nous, on n'est pas que des bluffeurs et on se vend pas. Même si pute est un très beau métier. C'est d'ailleurs bizarre que ce soit une insulte. Mais c'est juste que avec les années, on se rend compte que, en fait... c'est quand même un peu vrai.
Mais oui, évidemment.
Et en fait, on vit tellement des moments humiliants où on est obligé de... Bah, de... Comment dire ? Il y a aussi des moments où c'est un peu humiliant et on doit se donner à faire des trucs qu'on n'a pas envie de faire et du coup, après, ça nous abîme et on comprend que c'est plus là où on veut aller. Il y a aussi des moments où on se donne, on n'a pas trop envie et en fait, finalement, au bout d'un moment, bah... Et ben en fait ça va, en fait on kiffe. Enfin c'est très trouble cette frontière. Et en même temps, il y a plein de moments où on mytho des trucs et en fait ça passe. Donc en fait on est des bluffeurs.
Bah il y a une forme de soumission.
Ouais, il y a des moments de soumission, plus ou moins volontaires, plus ou moins agréables aussi.
Toi ça se trouve, peut-être que le fait que tu sois acteur, c'est aussi ça qui a fait que tu étais un chouette amoureux. Parce que t'as quand même une vie sentimentale assez riche et réussie, t'as eu plein de longues histoires, ou des histoires plus courtes, mais quand même t'aimes aussi les filles avec beaucoup de caractère, et t'aimes... tu vois, moi j'ai pas beaucoup rencontré après toi des mecs qui étaient, comme toi, attirés par les femmes intelligentes, tu vois, c'est assez rare, alors que c'est vraiment... Bon, t'aimes bien les filles jolies aussi, mais je pense pas que tu puisses rester longtemps avec une fille qui est juste jolie, tu vois. Faut que la meuf, elle envoie du lourd, quoi, qu'elle t'impressionne énormément quand même, non ?
Oui, mais en même temps, tout le monde dirait oui à cette question.
Ah non, je t'assure. Ah non, tu rigoles ?
Mais personne...
Bah, t'as écouté mon podcast ?
Oui, non.
Des humoristes ?
Non, personne là te dirait sérieusement à cette question. Ouais, moi, je pourrais m'en contenter. Non, personne.
Bah, il y a plein de mecs qui... discutais, je sais plus, la dernière fois avec un régisseur en tournée qui me disait que lui, il avait besoin de se sentir plus intelligent que sa meuf. Mais bien sûr.
Oui, mais il était invité dans ton podcast et il l'a dit.
Non, alors pas ouvertement dans le podcast, mais j'ai plein d'invités.
Il l'a dit en vont.
Ouais, mais j'ai plein d'invités du podcast qui ont assumé me dire qu'en fait, s'ils admiraient leur nana, c'était pour ses qualités humaines, sa douceur, sa générosité, la façon qu'elle avait de se comporter dans la vie. Toi, je pense que ce qui te fait kiffer sur des meufs, c'est vraiment, oui, leur comportement, leur attitude, mais leur façon de penser, enfin, tu vois.
Leur puissance, oui.
Leur puissance, ouais.
Ouais, carrément. Ouais. Leur manière de me... La manière de me... Non, leur puissance, ouais. Non, c'est ça.
Ouais, 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 complètement.
Alors après, c'est pas si c'est de l'intelligence, il y en a évidemment, hein, mais il y a une perspicacité, c'est des esprits, c'est plus leur puissance en fait, ouais. Précisément, je pense. Ouais. Et aussi, c'est un truc de, je pense, de une. C'est parce que comme ça me permet de m'accrocher à cette puissance et de faire « Allez, vas-y, c'est toi qui conduis !» C'est une manière de me déresponsabiliser aussi. Hein. Faut voir toujours le mauvais côté des choses.
Ah, c'est génial que tu l'assumes comme ça. Et...
Ah oui, bah, ouais. Je pense que c'est ça. C'est ça qu'il faut que je traite d'ailleurs et qu'il faut que je fasse attention à ça. Quoi.
À pas être le wagon et la
à
femme,
pas
c'est
être,
la locomotive.
À faire du ski nautique, quoi. Vas-y, j'aime les femmes puissantes et je suis féministe. Non mec, juste tu veux pas avoir de responsabilité. Et ça t'arrange très bien d'être... La meuf qui reste à la maison et
sauf
qui
un type de
pendant que l'autre ouais. Pendant que le mec va charbonner, autrement dit les rôles sont inversés, mais
il y a
c'est
type
clair quoi.
De responsabilité que de mon souvenir tu adores endosser,
ouais.
C'est l'organisation des vacances.
Ah ça, oh oui. Enfin ça dépend ouais. Parfois ouais, parfois ça peut m'angoisser ou mais tu sais ce qu'on disait juste avant, ça me fait penser à une humoriste américaine là, tu sais qui faisait un truc qui s'appelait Baby Cobra.
Ali
où
Wong.
Elle dit ouais où bah elle oui. Dit genre ah bah non mais moi le féminisme je sais pas trop, parce qu'en fait, ce qui m'arrange bien, c'est d'être chez WAM, à regarder Netflix pendant que mon mec va gagner 25% de plus que moi et va charbonner. En fait, c'est cool aussi de rester chez moi et de rien foutre. Et ben moi, j'ai l'impression parfois peut-être d'être cette personne un peu dans le couple et de m'accrocher à des meufs puissantes qui sont des bulldozers. Et comme ça me permet peut-être de donner une bonne image de « Ouais, j'aime bien les meufs puissantes, mais en fait, c'est aussi un truc pour me déresponsabiliser. » Enfin, voilà. Voilà, attention je vais balancer en termes de défauts.
C'est génial ouais, que tu fasses ce travail. Bah écoute, ouais, c'est
voilà,
marrant.
Mais c'est parce que j'ai... Voilà, mais bon.
Mais en tout cas, les vacances, je me souviens, c'était l'un des premiers trucs.
Ouais,
je m'avais dit, alors
ouais.
Écoute Rosa, ouais. S'il y a bien un truc que je sais faire, c'est louer des baraques.
Ouais.
Et ça, il fallait te le laisser.
J'adore.
Attends, mais quand même,
des
alors,
maisons. Ouais.
La
ouais.
Maison à Sauzon, ça avait été une réussite. Mais par contre,
ouais,
on s'était planté sur ça, la USS. C'est toi qui l'avais choisi aussi
Ouais, c'était carrément moi. En fait, ce que j'avais kiffé, c'était le côté genre...
Piscine.
Ouais. Mais en fait...
Beaucoup trop loin du Zest,
ouais,
alors qu'on n'avait pas le permis.
Oh, pas de permis. Mais tu sais que je continue à le faire, parce que j'ai toujours pas de permis. Et j'ai
pareil.
Toute ma life.
Oh.
À chaque fois que je suis parti en couple en vacances, c'était genre, t'inquiète, des plans sans permis, avec des stops et tout.
Oh mec,
ah,
mais il
ouais.
Faut pas te laisser organiser
ouais,
les vacances.
Ouais,
tu
si. Si, si.
Mais après, tu trouves des partenaires qui ont des permis de conduire.
Non.
Pas toujours.
Non, non. Donc, ça continue, à, ouais.
Ouais.
Et toi, tu... Et toi, tu, par rapport au mec, tu dirais que c'est comment par rapport à ce truc de... T'as envie d'homme plus puissant. Enfin, tu vois, par rapport à ce que j'ai dit, toi, c'est comment?
Bah, moi, je pense que, franchement, j'étais tellement contente d'être en couple avec toi et justement d'avoir un gars qui... même si on a eu des grosses engueulades et tout, mais quand même, justement, je croyais que je me sentais vachement... vachement célébré en fait dans mon caractère et
attends, par moi ou par ceux
toi,
qui ont suivi?
Okay. Non, par toi et par ceux qui ont suivi, c'était beaucoup plus dur. J'ai pas retrouvé ça. Je franchement, en fait, je pense que peut-être qu'à la base, en fait, je crois que je suis attirée un peu par les bad boys, tu vois, et que d'ailleurs avant toi, j'avais été un peu avec un gars comme ça.
Ouais,
et que moi,
ouais,
je...
Ouf, putain, ouais, je m'en rappelle.
Tu te souviens?
Oui, yeah. J'avais l'impression de passer après, je sais pas. Un ours quoi.
Ouais, ouais,
après, j'étais
dangereux.
Là genre...
Ouais, grave.
Moi j'arrivais à être une belette quoi.
C'est clair, mais c'est vrai que je pense qu'à la base j'étais quand même un peu genre branchée en mode il me faut un sacré stock de
ouais,
testostérone pour que les clignotants soient verts.
Ouais.
Et d'ailleurs, toi au début, je t'avais trouvé jolie de visage. Je me disais, bon, bah, il a une tête mignonne.
Tu t'étais dit, c'est qui cette fille, quoi?
Bah, ouais, je me disais, c'est un bébé, tu vois. Et c'est vrai que, d'ailleurs, j'étais même pas très sympathique avec toi. Tu te souviens?
Ah,
au tout
oui,
début,
t'avais des petits élans de perversité.
Sèche,
ouais, t'étais
un peu sèche,
un peu rac.
Pas perverse, mais sèche.
Ouais,
en mode,
ouais.
T'as pas compris là ce que j'ai dit.
Ouais, ouais, t'étais un peu genre. Moi, je pense que ça devait me titiller. Je me disais, elle doit être plus intelligente puisqu'elle me parle mal, tu vois. Ah, mais moi, je suis vraiment une victime, quoi, dans
mais,
les rapports.
Mais c'est, non, mais c'est aussi que t'étais taré. Il faut expliquer la situation. C'est donc aussi, on travaillait une scène ensemble et tu me rendais folle parce qu'en fait, donc c'était une scène où je faisais ta mère dans Roberto Zucco et tu devais rentrer sur scène. Et tu te souviens ou pas? Tu ne rentrais pas sur scène?
Bah oui, parce que j'étais pétrifié.
Mais ça mettait des
mais parce qu'on avait un prof de théâtre qui était pardon, je vais faire
ouais,
mon...
vas-y.
Mais qui je vais faire mon je vais utiliser des termes woke, mais en fait je m'en rends compte encore aujourd'hui qu'on était avec un prof qui exhalait une masculinité des
toxique,
plus toxiques
de
et
ouf.
Qu'en fait moi je ne peux pas en fait ouais. être c'est comme je c'est comme quand je choisis une psy, j'ai besoin d'une femme parce qu'en fait sinon ça bloque, je n'y arrive pas. Ou quand ou si j'ai des potes, j'ai besoin de potes qui sont pas comme ça, qui sont à l'inverse, qui sont beaucoup de, même si ça peut être sexiste parce que ça se rapporte à des trucs sexistes, mais qui ont une part de féminité
ouais.
assumée plus ou moins. Mais je peux pas être avec des mecs qui sont des mâles. En fait, ça m'angoisse.
On a eu un pote en commun qui était un peu comme ça.
Oui, mais c'est un fou, c'est différent. Il est fou, il est drôle, il est fou, ouais. il a un regard sur lui et du coup, il a une part de féminité. Mais en fait, ce prof, c'est pas tous les ouais. profs de théâtre qui m'ont dégagé ça, ça s'est pas mal passé.
Ouais.
Pas un moment, je me suis fight avec eux, ou je me suis frité, ou je me suis écrasé, ou j'ai souffert. En fait, je ne peux pas être dirigé par des mecs qui sont là. Allez
ouais,
vraiment,
c'est
c'est insupportable. Donc,
bah, je
en fait,
l'ai bien
c'est...
descendu hein, dans le bouquin.
Ouais, ouais, mais tu fais bien, parce qu'en fait, c'est paralysant. Et moi, c'est pour ça que je pouvais pas...
C'est marrant,
pas
j'ai pas eu de retour
scène.
Là-dessus. Genre, je m'attendais...
Non, mais... pas, tu penses qu'il va le lire?
Je sais pas.
Ça me paraît très chelou qui
peut-être un jour, quelqu'un lui donnera une page.
Peut-être.
Tu sais...
Bien sûr, il était stressant. Moi, ça me stresse.
Ouais, et résultat, tu rentrais pas sur scène. Terrifié. Sur scène. Mais je devenais folle. Et j'étais là, mais Johan, mais rentre sur scène.
Terrifié.
Parce que moi, j'étais en carafe, tu vois.
Ouais.
J'étais là, Roberto tu vois, et finalement, tu rentrais. Et parfois, j'avais l'impression que tu ne m'écoutais pas quand on était sur scène.
Oh ouais, non, mais insupportable, bien sûr. Ah, ça, par contre, c'est un classique de moi, jeune acteur.
Ouais.
J'écoutais personne, j'étais sur WAM beaucoup.
Ouais.
Très angoissé de ce que j'allais faire moi. Et incapable de me laisser aller dans l'écoute de l'autre. Je pensais pas que ça avait une puissance.
Ouais.
Je ne pensais pas que par l'écoute de l'autre, on pouvait déjà jouer 90% de ce qu'on a à jouer.
Ouais.
Je n'y croyais pas.
Ouais,
et du coup,
vrai.
J'étais seul tout.
Bah, c'est vrai, et je crois que bizarrement, même si ensuite quand on a été ensemble, je me sentais vachement mise en valeur quand même, c'est-à-dire je sentais que tu me trouvais intelligente et que tu trouvais que j'avais un fort caractère et que ça t'amusait, que ça t'impressionnait, tu vois, le fait que j'ai pas peur, que je dis chut comme ça au cinéma, tu vois, si quelqu'un faisait du bruit.
Ouais.
Mais par contre, sur scène, dans notre dynamique d'acteur, parce qu'on faisait toutes nos scènes ensemble, étrangement, je me sentais soumise et dans ton ombre.
Ah ouais, mais c'est, ouais. c'est je comprends.
J'étais vraiment dans ton ombre.
Soumise.
Ouais, j'étais soumise. Bah, j'étais soumise aussi sexuellement, je pense.
Bah.
Mais c'était le début. Enfin, en vrai, c'était la sexualité hétéro de base avant
ouais.
MeToo, quoi.
Ouais,
avant qu'on se déconstruise.
D'un mec né en 89.
Ouais, ouais voilà. Et
ouais,
d'une meuf
sûr.
Née en 89,
bien
tu
bien
vois,
sûr.
C'était notre truc. Mais après, sur scène, ouais, il y avait vraiment ce truc où je pense que je te regardais. Quand même, par contre, je t'admirais énormément en tant qu'acteur. C'est le truc qui... Et ça, c'est vrai que je t'ai toujours admiré en tant qu'acteur, même avant de tomber amoureuse de toi. Mais ensuite, quand on était ensemble et qu'on a commencé à travailler et à faire nos scènes ensemble, tu vois, ça, c'est vraiment des moments de bonheur et de complicité.
Ouais.
Les ETL.
Ouais,
et c'est vrai
c'était
que...
Ouf.
Et c'est vrai que je te regardais, je me disais, mais il est incroyable. C'est le...
Moi, je prenais du plaisir parce que... Ce que j'aimais bien de toi à ce moment-là sur scène, c'est que je savais jamais comment t'allais jouer un truc. Et j'aimais bien que tu... Comment dire ? Les écoles, ça formate les gens qui jouent. Et t'as un peu un truc de... Ah, ok, ce jeune mec, il va jouer à cette scène comme ça, et cette jeune meuf... Et tu vois les gens rentrer, et déjà, ils ouvrent la bouche, et t'as l'impression que... C'est... Même, tu sais, quand... Ça me fait penser à... Tu sais, quand... moi, on regardait pas mal la Nouvelle Star.
Ouais.
Et tu sais, à chaque fois qu'il y avait des meufs qui débarquaient et qu'elles chantaient un nouveau truc, souvent elles rejouaient du Brassens. C'est
ouais.
là. Ma peut-être, tu sais, avec cette voix.
Ouais.
Tu vois, cette voix de années 2000, là, des meufs, elles avaient toutes la même voix.
Ouais.
Et ben, ça fait ça dans les écoles de théâtre.
Ouais,
il y a
ouais.
un peu forcément ce truc de lissage où les gens. Et en fait, toi, ce que j'aimais, c'est que on savait jamais quelle connerie t'allais faire.
Ouais.
Et peut-être même que parfois t'allais te planter.
Ah oui, oui, oui.
Mais au moins, t'as là un endroit où on est là.
José.
What the fuck
ouais.
Comment elle joue cette scène? Et c'était ça que j'aimais beaucoup. C'est qu'il y avait une prise de risque formelle. Voilà, moi, c'est ça qui m'excitait beaucoup. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'aimais bien
Je l'ai pas raconté dans le livre, la scène qu'on avait fait l'officier et la juive. C'est pas dans le bouquin.
Ah non, non. Ah, je sais pas. Parce mais d'ailleurs, il faut que je le relise. Parce que si j'ai lu
je vais te la première. J'en ai mis un de côté. Mais... Bah oui, j'en ai mis un de côté, mais je l'avais écrit dans la. J'avais encore plus écrit sur toi dans la première version du livre et mon éditeur m'a fait couper. Au départ, mon éditeur n'accrochait pas avec ton personnage.
Mais il accrochait pas, c'est-à-dire, il était en mode je le veux plus.
Il disait c'est un ectoplasme. Il disait c'est trop gentil. Il disait en fait il n'arrivait pas à accrocher. Il adorait le personnage de mon père parce qu'il disait enfin tu vois il trouvait qu'il y avait quelque chose d'emblée qu'on voyait qui était. Mais il disait il trouvait que je te protégeais trop quoi. J'idéalisais. C'était.
Ah d'accord. Il était là vas-y enfonce le plus.
Ouais. Oui oui. Je pense qu'il me disait.
Mais d'ailleurs. Ouais. Pour rectifier ce que t'as dit au début.
Il y a des choses qui t'ont vexé.
Ah, mais moi, il y a plein de choses qui m'ont piqué, mais en fait, j'aurais peut-être pas pensé comme ça il y a 10 ans, où il y a... En fait, je déteste, dans les histoires d'amour, que les gens pensent, quand ils font partie d'une histoire d'amour, quand ils sont dans une histoire, en tout cas dans une histoire de couple, qu'ils pensent que leur version est la bonne. Pour moi, une histoire d'amour, c'est deux versions sur une réalité, et qui n'ont souvent rien à voir. Parfois, elles ont à voir. Et ça fait des moments heureux, de totale alchimie. Voilà. Et les moments où ça se passe mal, les versions sont différentes. Ça, c'est une loi. Et donc, en fait, en lisant, je savais qu'il y avait des trucs qui allaient me piquer. Mais je me disais, avant même d'ouvrir le livre, je savais que, à moins que tu aurais sorti une contre-vérité, mais un truc abusé, une invention, truc de...
Déformant.
Ouais, vraiment, de révisionnisme, tu vois, un truc vraiment... Et je savais que ça allait me piquer. Mmh. Et ça m'a piqué. Il y a plein de situations où je me suis dit, bah, c'est pas exactement, c'est pas ça, vraiment, meuf, ce qui s'est passé. Mais je trouve ça tellement triste de se dire, bah non, c'est pas comme ça. Et de t'appeler et de dire, retire les passages, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, c'est ta version.
Ouais.
Ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que ça me touche aussi, c'est que ça me pique et en même temps, ça me rappelle des souvenirs et je me rappelle pourquoi parfois on s'est engueulé. Parce qu'en fait, on vivait pas les choses de la même manière. Et donc, c'est un tout. C'est un tout et c'est pour ça que... Mais oui, ça m'a piqué. Et c'est
tu
pour ça justement
quoi,
que c'est bien raconté.
Qu'est-ce qui t'a piqué
Toutes les phases avec ta famille et tout ça, par contre, j'ai trouvé ça plutôt juste. Tous les moments...
Le dîner.
Oui, ou tous les moments de joyeux.
Ouais.
Mais tous les trucs sur...
Le sexe.
Ouais, sur le cul et tout. J'étais en mode... Oh en fait, oui, ça s'est passé comme ça.
Ouais.
C'est pas totalement faux. En fait, c'est vrai. Tu vois, je vais pas dire aux gens là, attention, elle dit pas la vérité. Non, c'est comme ça que tu l'as vécu, donc c'est vrai. Mais moi, de mon côté, pétrifié comme j'étais, avec la sexualité jeune que j'avais.
Oui, bien sûr, il y avait une part d'innocence.
Pour moi, c'est pas du
naïveté.
Tout comme ça que je vivais les choses. Du tout, du tout, du tout, du tout.
Oui, mais c'est un truc sur lequel on a déconné et dont on avait beaucoup reparlé après.
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Mais c'est pas du tout comme ça que je l'ai vécu parce que moi, j'étais pétrifiée. Enfin, j'étais,
mais moi, j'ai mis du temps à comprendre que, tu vois, enfin, c'est par rapport au chapitre sur la fellation. En fait, c'est vrai que c'était... ouais, je pense que bon, après, c'est des trucs de jeunesse, quoi. Mais c'est aussi, tu vois, c'est aussi maintenant... Après, c'est marrant, quoi, ce truc de la fellation. Parce que bon, au final, oui, j'en parle comme ça, mais parce que je pense qu'en effet, peut-être que... et ça se trouve, ça parlera à d'autres couples. Il y avait des mécanismes qui s'étaient un peu installés.
Ouais,
tu
complètement,
vois, c'est
complètement,
ça.
Oui.
Et donc, c'est vrai que... peut-être le déséquilibre, je l'ai pas vraiment mis dans le livre, mais c'est que je pense que, enfin si je disais, j'avais l'impression d'être méchante et que voilà, je te suçais pour me faire pardonner.
Ouais, non, mais il y avait des, bien sûr, il y a des routines de trucs qu'on s'échange, de commerce comme ça qui se font dans le couple. Non, mais ça c'est juste, hein. Ça c'est juste.
Et c'est vrai que je me souviens que parfois il y avait aussi quelque chose de ta part, c'est que tu pouvais être un peu complexé. Genre, je me souviens, si on allait voir un film, et qu'en sortant, genre, toi, t'avais aimé, et peut-être moi, moins, t'avais quand même un truc, je pense, amoureux fusionnel, où tu voulais quand même qu'on ressente tout pareil, et qu'on pense tous, toujours,
ouais,
tout de même.
J'avais un complexe d'intelligence par rapport à toi.
Et t'avais un complexe de culture,
ouais.
Et donc,
de
résultat,
culture,
si je te...
De culture, oui,
de culture,
ouais.
Et si je te disais deux, trois arguments, et t'étais... Et en
ça
fait,
me scotchait.
Ouais, puis tu te braquais, tu te vexais. Et,
ouais,
et en fait, et tu me le faisais dire, moi, dans ma bouche, donc tu me disais, donc je suis con.
Ouais.
Alors que je ne l'avais pas dit.
Alors ça, c'est tout le paradoxe d'aller... c'est ce qui m'a attiré et qui... comment dire? Ça, j'arrive pas à l'expliquer. C'est merde de me foutre dans la merde. C'est-à-dire que c'est ce qui m'a attiré chez toi et qui m'impressionnait. Donc, au fur et à mesure, me mettait dans un rapport de... où je te mettais sur un piédestal et ça me frustrait, quoi. Et je me disais, ah putain, elle a... tellement plus de culture que moi et je me sentais pas bien, quoi. Je le vivais mal.
Alors que moi, je faisais tous les efforts. Tu te souviens, je t'avais acheté un bouquin, Penser par soi.
Oui, bien sûr, que j'ai toujours. Que j'ai toujours avec la page déchirée de voler à la Fnac. La couverture,
oh, putain,
il est volé à la Fnac, bien sûr.
La fois où on avait volé des livres et on s'était fait arrêter par les flics.
Bien sûr, bien
sûr. Et c'est marrant parce que oui, il y avait vraiment ce truc où dans notre couple, c'était beaucoup moi souvent qui jouais la virilité et toi la féminité.
Oui.
Il y avait vraiment ça. Ouais, ouais. Et c'était un truc, une dynamique, hélas, que j'ai pas retrouvée après. Où je Mais c'est vrai que c'était. Et donc, résultat.
C'est une dynamique qui me parle.
je faisais le coq devant toi. Bah, tu vois, quand on est typiquement, on allait à la Fnac et juste pour t'impressionner, je volais des livres
vrai,
sous
putain,
tes yeux.
En fait, c'est ça, tu faisais
je
vraiment
le coq. Je faisais
genre, je vais voler une caisse.
Regarde ma grosse quéquette. Enfin,
ouais, Kelly,
ça.
Je vais voler une caisse. Ouais.
Tiens-toi bien, ouais.
Bien sûr, bien sûr.
T'étais ma gonzesse, quoi.
Ouais, j'étais. Et moi, je te disais, mais non, Thierry, arrête.
Ah ouais, 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 calme-toi, enfin, Titi.
Bien sûr. Et en fait.
Tu voulais pas que je vole et t'avais peur. Mais je vois, en fait, et moi, je pense que je le faisais. J'avais l'habitude de voler des livres à la Fnac, mais surtout, je voyais.
Ça me pétrifiait.
La peur dans ton regard. Et donc, à chaque fois, et je volais, une fois on s'est fait arrêter par les flics, quoi.
Ah, bien sûr.
Et en plus, j'ai empiré la situation en leur mentant.
Ouais, parce que on va dans un. Pour dire aux gens, on va dans le. Déjà, on sort de la Fnac, Rosa est devant moi, et d'un coup, il y a une main sur mon épaule, je me retourne, et il y a un mec qui dit, genre, monsieur, vous nous suivez? Et là, je vois Rosa qui continue à avancer, je fais, bah, Rosa.
Mais
en
oui,
fait, surtout, le vol
genre...
n'était pas commis. Enfin, c'était pas sur moi, les trucs. Du coup, j'ai fait, bah, on y va.
Trapeteur.
Donc, on les a suivis jusqu'à une petite guérite. La Rosa, elle était trop mal. Et là, les mecs, ils disent, est-ce qu'on a une petite question? Donc, d'abord, retirez tout ce que vous avez volé. Donc, la Rosa, elle est trop mal, elle sort tout ce qu'elle a volé. Et là, les gars, ils disent, est-ce que vous êtes mineur? Et là, va savoir pourquoi. Rosa se dit que plus jeune, on risque moins. Donc, elle dit, oui, on est mineur, alors qu'on avait genre 19 ans et 20 ans, un truc comme ça. Et du coup, le vigile, immédiatement après qu'elle ait dit cette phrase, dit « Ok, alors on appelle la police.
» C'est ça, putain.
Et là, je regarde Rosa avec une envie de la tuer. Et genre, meuf, dis la vérité.
Ouais.
Et là, Rosa, elle fond en larmes. Et le mec, il commence l'appel avec les flics et tout. Et au bout d'un moment, Rosa...
Je me suis énervée,
elle,
non,
Et là, t'as arrêté, t'as dit au mec « Non, non, mais en fait, on n'est pas mineur et tout. » Enfin, c'était nul,
et
quoi.
Et j'ai crié aussi, je me suis énervée.
Oui, oui, t'as dû t'énerver pour dire « Nous, on n'a pas l'argent » ou je sais pas quoi. Enfin, bon, voilà, mais...
Ah ouais, tout s'effondrait.
C'était, c'était pathétique, mais en un grand moment.
Ah, toi,
et après,
t'étais...
on a dû aller au commissariat.
On a dû aller au commissariat.
Bien sûr. Pour dire qu'on n'était pas mineur, tout ça.
Mais après, on n'était pas mineur, mais on avait en effet 18 et ouais, 19.
On avait 18...
Non, toi, t'avais 17 et moi 18. Ah non,
on avait 19 et 20.
Ouais. Oui, parce que la première année, on n'est pas sortis ensemble la dernière.
Ouais.
Oui, c'est vrai. Bah là, ça s'effondrait, quoi. Tout d'un coup, tout mon jeu de puissance devant toi tombait. Mais c'est vrai, je pense que quand j'en reparle comme ça avec toi, je me dis, oui, il y avait beaucoup de... Je pense que, en effet, ce qui fonctionnait quand même, dans notre couple, c'était ce truc où t'étais impressionnée et moi, genre, je glowais, quoi. Et je pense qu'en fait, il y a aussi
tu
un...
Tu quoi
J'avais le glow, tu vois.
C'est genre, quoi le glow?
Tu sais, j'en sais rien, ça se trouve, genre, j'ai un anglicisme,
ah non,
mais...
Ah c'est quoi?
Tu sais, le glow, c'est quand tu shines.
Il y a une série qui s'appelait glow,
glow
comme ça.
Glow, tu sais, c'est la peau d'un coup quand elle est lumineuse.
Ah oui, d'accord,
tu vois.
Ça me dit quelque chose, d'accord.
Je crois que j'avais ce truc parce que... Parce que moi, pour le coup, j'avais aussi un petit complexe de supériorité. Hein. Je pense que je me trouvais pas conne du tout. Je pense que, tu vois...
Ah,
et
oui.
Je pense que vraiment, j'avais un ego assez, ouais, assez mastoc.
J'aimais bien ça, mais oui.
Et quand ça a été brisé par les concours,
ouais.
En fait, ça a aussi totalement perturbé la dynamique de notre couple parce que d'un coup, j'ai commencé à tomber en dépression et à perdre confiance.
Ouais. Et là, moi, je pouvais plus grand chose.
Et là, tu pouvais plus grand chose à paraître l'infirmier, mais mais en fait, le truc, c'est que
au bout d'un moment, ça
épuise. Ça épuise, ouais. Mais c'est vrai que c'était.
J'ai cru que j'allais l'être, mais j'ai refait cette connerie après encore, mais ouais, très compliqué ce rôle, impossible.
Ah ouais, c'est ça. C'est que oui, il aurait fallu peut-être si j'étais tombée de moins haut. Tu vois.
Peut-être. Tu te serais fait moins mal.
Serais fait moins mal.
Oui, là, c'était vraiment une reine déchue, là. C'était,
ah ouais.
J'étais avec une reine victorienne qui se, tu sais, impossible à tenir, impossible. C'était
ouais.
Ou tu sais, je pense à ce film qu'on avait vu plein de fois. de l'âge d'or américain là.
Ah oui, Boulevard du Crépuscule.
C'est quand elle descend l'escalier.
Bah oui.
C'est genre.
Bah bien sûr. Ah, bah, voilà, Billy Wilder.
Je pense tout le temps à cette scène quoi. D'un coup, c'est cette actrice.
Actrice du cinéma muet.
Ouais, c'est ça. Qui, ouais, bien
qui
sûr.
N'a pas voulu passer au parlant.
Bien sûr, et du coup, elle s'est fait niquer. Là, elle, c'est sa chute quoi.
Et il y avait aussi une colère, je pense vraiment, parce que je pense que aussi. Déjà, j'avais raté le cons, toi, t'étais rentrée. Et je pense que j'ai culpabilisé de trop t'aimer. Je me suis dit...
Oh là là, attends, ouais. T'es sûre?
Oui, je l'ai écrit dans le livre, tu sais.
Ah ok, putain la vache. Ok, moi je rigole genre.
Non, vraiment, je pense que je me suis dit... je t'ai trop donné, j'avais l'impression d'accord. De... J'avais l'impression de m'être un peu effacée derrière toi. Je me disais, s'il est rentré au cons, c'est parce que... Tu vois, je me suis dit... Est-ce que si j'avais gardé l'amour pour moi, en fait, au lieu de le donner autant à Johan, au lieu de le regarder, au lieu de... Parce que je te regardais beaucoup.
Il fallait... On se donnait. Moi, quand je suis rentré au conservatoire et que tu l'as pas eu, j'étais vénère. Les quatre premiers mois, j'étais juste vénère. J'étais pas là.
Ouais.
Je regardais tous les autres meufs mal. Ouais. J'étais vénère. C'est trop.
Mais c'est vrai que c'était un amour incroyable. Hein. Mais... Tu sais, les gens, on s'envoyait des poèmes au début, tu te souviens?
Oui.
Toi, c'est marrant parce que tu... Est-ce que tu comprends ce qui se passe en toi quand tu cesses d'être amoureux?
Non. Pas du tout. Et c'est terrible. Et moi, ça ne dure pas en plus. C'est un enfer. Je suis pas du tout un coureur de fond. Je ne sais pas ce qu'il se passe chez moi. Je ne saurais pas te dire. C'est un basculement. Et ça... Et voilà. Très compliqué. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Non, mais vraiment, il n'y a rien. J'ai rien à dire.
En tout cas, de notre histoire, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'à un moment, il y a la tentation de rencontrer d'autres personnes.
Oui, parce que j'étais dans une relation qui commençait à devenir un peu...
Oui, mais en fait, oui, mais rappelle-toi quand j'étais partie à Londres, c'est toi qui... On s'était un peu séparés là-bas, mais tu voulais à tout prix que je revienne.
Ouais, c'est vrai.
Et mais j'étais revenue.
Je pense qu'il y a un...
Ouais.
Je pense que je m'accrochais à quelque chose.
Ouais.
Et j'avais encore des sentiments, mais je donnais plus que ce que je ressentais.
Mais t'as eu des sentiments jusque même après qu'on se soit séparés. Tu te souviens, ils ont mis du temps à partir parce que même quand on était séparés, je m'en suis souvenu récemment, on avait un ami qui était venu dans notre appart et je l'avais embrassé devant toi et t'avais pété un câble.
Ouais, mais ça, c'est un truc de... Alors ça, je l'ai perdu avec les années.
Ouais.
C'est un truc de possession. Mais ça, je l'ai vraiment perdu avec les années. Énormément. Mais c'est un truc de jalousie, de possession, de...
Ah ouais, mais c'était beau. Et j'avais l'impression que c'était le dernier bastion pour avant qu'on devienne vraiment amis.
Ça m'a beaucoup... Oh, ça m'a fait chelou.
T'es parti à Guernesey.
Ouais, j'ai fait une petite fugue.
Est-ce que c'était ta dernière fugue ou t'en as refait après?
Ouais, c'est ma dernière fugue.
Incroyable.
Que j'ai faite de ma life. J'avais 21, un truc
mais
comme
non,
ça.
En plus.
22. Bah, je suis sorti du...
Mais non.
J'étais encore au conservatoire et je suis sorti à 22. Donc, en fait, j'avais 21. Ouais, 21 et demi, un truc comme ça.
Putain.
C'est la dernière. J'en ai plus jamais refait.
Waouh, on était jeunes.
Ouais.
Oui, donc, pour situer aux auditeurs et auditrices, en fait, Johan faisait des fugues. C'est-à-dire qu'il prévenait personne. T'éteignais ton téléphone et tu partais. T'en avais fait une.
Ça durait pas 24
heures. Une journée. Attends, moi, j'étais en panique. Mais je me souviens.
Et
ça, pareil, je l'avais raconté dans le livre au départ. Ouais. Et mon éditeur m'a dit, on s'en fout. mais j'avais raconté, tu faisais des fugues où tu partais à Versailles. Ah, non, mais je le dis pas que tu faisais des fugues où tu partais à Versailles.
Si, c'est possible, je l'ai rajouté, je l'ai gardé.
Non, tu partais à Versailles. Donc ça, je m'en suis rendu compte qu'en appelant ta petite sœur.
J'ai personne à Versailles, précision.
Non. T'as personne à Versailles, mais tu faisais une vraie... Est-ce que toi aussi,
faisais un pèlerinage sur les lieux de la chrétienté.
Non, mais en fait, c'est aussi pour ça qu'on a été ensemble et qu'on a vécu une grande histoire. C'est parce qu'on se ressemblait énormément et que tous les deux, on avait un complexe de supériorité et un complexe d'infériorité. Mais pas aux mêmes endroits et pas aussi conscientisés. Mais c'est vrai que toi, t'avais un complexe de supériorité, mais qui était délirant, en fait. C'était que t'avais quand même un peu la sensation de descendre des rois de France.
J'ai souvent vécu dans cette... J'ai mis du temps à accepter que mes parents étaient mes parents dans ma vie. Je les aime bien, mais j'ai toujours parfois cette idée encore où je me dis que... Ils me ressemblent pas trop, mes parents. Et j'ai toujours un peu ce truc de bizarrerie, toujours. qui continue. Je ne comprends pas pourquoi mes parents sont mes parents. Et ça continue, et c'est vrai que quand t'es adolescent et que t'es un peu... t'es un peu à faire des trucs extrêmes, bah tu fantasmes sur qui seraient tes vrais parents.
Tu sais que moi je descends des rois de France.
Ouais ouais, j'ai entendu ton...
Avec alors, François.
J'ai entendu ton truc sur Saint-Louis, et ouais. Dès que t'as dit Saint-Louis, moi j'ai réagi parce que je connais son passé antisémite.
Oui bien sûr.
Donc j'ai tout de suite on m'a dit, mais c'est un énorme antisémite, il n'y a aucune fierté, c'est l'enfer.
Mais non mais, tu te rends compte, c'est la particularité de mon histoire.
Ah mais c'est Cradoc, hein. Saint-Louis il est Cradoc. Hein. Vraiment
sais.
C'est un roi, c'est l'enfer.
Mais dis-toi,
vraiment...
du côté de ma mère, ça veut dire
brûlage
que...
de juifs et tout et tout. Hein.
Oui mais c'est dingue, ça veut dire que au niveau de Saint-Louis, il y avait donc, je descends du roi le plus antisémite de France.
Ouais.
Au même moment, j'avais des ancêtres donc juifs en Espagne, bah, qui se faisaient bien vicos. Et quand même des siècles après, c'est quand même. Alors, et je crois pas du tout en la mémoire transgénérationnelle des cellules machin, mais l'histoire de ma grand-mère, c'est quand même l'histoire d'une juive qui est avec un antisémite,
ouais,
tu
sûr.
Vois.
Avec un pétaniste.
Donc c'est ouf. Ouais, c'est marrant Saint-Louis. Non, bien sûr, il y a pas de quoi être fier, mais bon, c'est marrant quoi.
Saint-Louis.
Enfin, je sais pas. Si, il y a aussi.
Il faisait pas genre. Il n'était pas à la fois genre, il lavait les yeux des gens et il brûlait des juifs. Il n'y a pas un double truc. Parce que je me rappelle le voir sur des, tu sais, sur des livres d'histoire où tu le vois, il est là, Saint-Louis qui lave les pieds des pauvres.
Ouin.
Je crois qu'il ouin les pieds des pauvres d'huile. Tu sais. Et après, brûler ces 1000 juifs. Oh putain, Saint-Louis. Tu peux pas être juste gentil, quoi.
Putain. En tout cas, tu faisais des fugues et la dernière fugue, ça a été la fugue où voilà, on était devenus potes, était allé à Guernesey en pèlerinage pour Victor Hugo.
Ça, c'était Victor Hugo style.
Ouais, Victor Hugo style, Guernesey quoi. Mais ce qui est marrant quand même pour situer la scène, c'est qu'en fait, c'est
se regarder en train de faire une fugue un peu. Hein.
Non, mais moi,
c'est
je trouve
pas non plus une
mais
vraie
c'est beau,
fugue.
Mais c'est qu'on était des malades mentaux, Johan.
Des malades d'égo.
Des narcissistes tarés et puis tu vois, on était quand même là en train d'être devenus potes, on n'était plus ensemble, on couchait chacun avec des gens de notre côté, on reçoit un pote comédien, on boit des coups à la maison et en fait je me mets à embrasser ce mec et toi au lieu
c'était
de
trop cool en plus la soirée qu'on avait passée avec lui, c'était trop bien.
Ouais. Et résultat, en tout cas, t'avais pas supporté l'issue de cette soirée et t'étais parti à Guernesey.
Voilà, c'est ça.
Tu t'es assagi avec les années
Des fugues, oui. Oui, enfin, c'est débile que les gens s'inquiètent pour tout. Enfin, c'est débile. Juste pour une petite. En fait, c'est une fuite. Hein, c'est une fuite. Hein. C'est pas une fugue parce qu'on dit fugue parce que voilà. Après, c'est après, je reste nostalgique de cette sensation que t'as quand tu fais une fugue, qui est une sensation qui arrive très rarement dans la vie et qui est très particulière. Aujourd'hui, dans un monde où, attention, je vais dire une énorme banalité. Où t'es connecté à tout le monde tout le temps. Encore plus quand t'as une famille. Moi, j'ai une famille, quoi. J'ai un fils et tout, machin. Donc, tu vois, tout le monde sait tout le temps où t'es, en gros. Soit t'es au taf, soit t'es chez toi, soit t'es à ce moment-là, ce soir, chez toi, parce que là, t'as pas ton gamin, donc là, tout le monde sait tout le temps. Mais cette sensation dans ce monde-là, d'être quelque part pendant un certain temps et de pouvoir aller à d'autres endroits sans que personne sur Terre sache que tu es là, ou du moins quand tu es dans ces endroits, si tu croises des gens, personne ne sait qui tu es, donc ce truc de perte totale, ça arrive tellement rarement. Ça arrive très rarement. Au pire, là, tu peux, si tu veux, tu sors de chez toi et tu vas dans le parc à côté pendant 10 minutes, personne ne saura que tu es au parc. Mais ça dure 10 minutes. Mais est-ce que toi, là, demain, tu peux partir pendant 3 jours, 4 jours de chez toi, et genre...
Ne pas rendre de compte.
Et genre... Personne sait où t'es pendant 3-4 jours. Moi, ça,
ouais, c'est la liberté.
Je trouve que c'est la vraie liberté et que c'est quasiment impossible à obtenir. Et qu'en fait, quand tu le vis, quand tu vis ça, et ben en fait, t'es obligé d'ailleurs, quand t'as 16 ou 17 ans, de le vivre de façon contrainte. Enfin, t'es obligé de mentir à des gens et de t'enfuir parce que les gens n'ont pas intérêt à ce que tu disparaisses. Et ben ça t'offre un frisson, t'as l'impression que chaque pas que tu fais, si tu continuais dans cette folie et que t'allais, je sais pas, à l'autre bout du monde en improvisant, ce serait dingue. T'imagines ce que tu ressentirais. Et ben c'est un frisson qui est dingue, mais qui, le problème, c'est qu'à côté ça va avec de l'inquiétude de tes proches horribles, des gens qui pensent qu'il t'est arrivé un truc atroce, et donc en fait quand tu reviens t'as énormément de culpabilité et c'est l'enfer, et donc t'arrêtes, tu le fais pas, mais en fait cette sensation est tellement dingue. Elle est vraiment dingue.
Bah ça, moi, je pourrais pas le faire à ma mère, tu vois.
Bah ouais.
Je pourrais pas, elle pourrait pas ne pas savoir où je suis. Ouais. Je pourrais pas lui causer cette inquiétude. Mais par contre, quand même, le deuxième confinement, le moment où j'ai écrit le livre, d'être seule dans cette maison et de mettre le téléphone en mode avion et de pas répondre et d'essayer de déconnecter, de passer plusieurs jours sans Instagram, sortir des réseaux sociaux. Si, ouais, c'était assez incroyable. Bah, j'étais vraiment connectée, mais aux bonnes choses. J'étais vraiment connectée à la terre, à la nature, aux plantes, aux arbres, aux feuilles, aux fleurs. Tu vois, je faisais des grandes balades, j'écoutais de la musique. Je pouvais marcher une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, toute seule, jusqu'à la tombée de la nuit, tu vois. Et tu sens, et t'as toutes les odeurs. C'était l'une des périodes les plus heureuses de toute ma vie.
Et t'étais où précisément ?
J'étais dans le golfe du Morbihan.
Ah ouais, c'est vrai. Et t'étais à quelle île, comment ça s'appelle ?
Ouais, c'est une île, on va
très
dire...
Très gabarek.
Non, c'est pas ça, on va dire l'île d'Ars, qui est l'île... C'est pas l'île d'Ars, mais c'est une île...
Ah, c'est pour pas dire le vrai endroit.
Bah, c'est l'endroit que j'ai mis dans l'île, qui est l'île d'Ars. Mais parce
c'est
que...
une île de milliardaires avec des...
C'est une île, ouais, bah, c'est clair que c'est pas ma maison, hein, c'est d'accord. De... Mais c'est sûr que c'est...
Et donc, sur l'île d'Ars, tu faisais ça
Ah ouais, je me levais avec incroyable. Le soleil. C'était la période, vraiment... moi, j'avoue, j'ai une nostalgie quand même de cette époque et je vis pas bien. Moi, je vis pas bien le rapport aux gens, hein, les interactions. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que j'ai mon podcast, je le dis toujours, mais c'est parce que c'est une interaction cadrée dans un, tu vois, dans un rendez-vous précis. J'aime parler avec les gens, mais je suis super associable, en fait. Je me dispute, je suis trop susceptible.
Et du coup, le podcast, il te permet quoi ?
Bah, il me permet de discuter avec des gens, sinon je serais totalement...
Ah ouais !
Tu sais, mais moi, j'aime...
Alors, en fait, c'est parce qu'il te permet de discuter avec les gens, mais de fixer ton propre cadre.
Oui.
À la discussion.
Moi, j'aime pas ça. Ou alors, tu vois, j'aime des trucs
sinon,
qui
si
sont...
t'angoisses, c'est ça le m'angoisse, côté, ça. Les gens viennent sur toi et font viens parler avec moi ou...
Ce qui m'angoisse, c'est dont je ne sais pas quand ça se termine dans le temps.
Ah, putain, ouais,
tu vois.
Oui, oui.
D'ailleurs, les fêtes, à chaque fois qu'on a fait des fêtes,
on a fait, c'est-à-dire.
Bah, tu sais, quand on faisait des fêtes, quand on habitait ensemble, ou si je fais une fête. J'avais vachement besoin de toi parce qu'en fait, moi, à un moment, j'avais besoin que tout le monde parte ou sinon ça me rendait
bien
folle. Et c'était toi qui me calmais, qui me disais Rosa, c'est une fête. Ouais. En fait, c'est normal que ça dure tard. Et en fait, en général, je me bourrais la gueule jusqu'à tomber fracasse.
Vrai. Tu te parce que, fracassais la tête.
Parce que sinon, je peux pas subir ce stress.
Ouais,
je peux pas gérer ça.
Ouais, c'est vrai, tu finissais tout le temps. Dans t'as fini beaucoup à vomir aussi. Hein.
Vomir.
Jusqu'à vomir. Ouais,
mais vraiment trop stressé. Mais parce qu'en fait, les gens.
Hystéro, début de fête, hystéro.
Début de fête, hystéro. Parce que j'avais pas d'amis quand j'étais enfant.
Ouais,
et donc, résultat.
Genre, c'était vraiment genre.
Mais il y avait un enjeu énorme.
De 50 piges qui découvre Facebook.
Mais
quoi.
Oui,
c'était vraiment en mode.
Mais rappelle-toi, au départ, à chaque fois que je fais une fête, j'envoie à peu près 30 textos parce que je peux pas recevoir plus de gens. Et puis au dernier moment, les dernières 24
c'était
heures,
ça, ouais.
Je suis persuadée que personne ne viendra, j'en envoie 100.
Ah ouais.
Tu te souviens la fête rue Jacob qu'on avait fait dans notre appart?
En fait, tu connaissais pas la limite où c'est à peu près acceptable de préparation de la fête?
Non.
C'était soit trop.
C'était
ou
toujours
soit,
trop.
Et c'est trop. Et par contre, les gens arrivent et deux heures après, paf, bam. Tu vas aux toilettes, bam, c'est fini.
Dead. Je passe.
Parce que t'as voulu, ouais. C'est vraiment genre... parce que tu parlais de Facebook, c'est vraiment genre... Zuckerberg qui organise une fête, tu sais. Il crée un logiciel pour... Mais par contre, il tient pas l'alcool, quoi. Au bout d'une heure trente, il va se coucher parce qu'en fait, il est dans un état d'apoplexie parce qu'il y a trop de monde, en fait, ça l'angoisse.
Mais complètement. Et tu dis vicos, mais moi aussi, je suis une vicos.
Ouais, oui, t'étais une vicos.
Moi aussi, je suis très.
T'avais des gommettes, enfin.
Mais bien sûr, et j'ai pas de répartie, en fait, mine de rien. C'est pour ça que je suis trop violente. C'est parce que je sais pas comment me défendre de façon cool. C'est pour ça que ça se transforme en un spectacle de stand-up avec des piques écrites et répétées, dures et cruelles. Mais c'est parce que sur le moment, sur la vie, parfois, j'ai du mal à retourner. Je la retourne trop violemment. Tu vois,
tu la retournes ton vénement, de quoi tu parles?
Je craque, tu vois, je craque, je me dispute,
d'accord.
Je crie. Je veux dire, quand on était ensemble au studio d'Anier, je me souviens, les gens me parlent encore de cette fois où j'étais partie en faisant des doigts d'honneur à tout le monde.
Ah ouais.
Et c'est vrai que c'est compliqué. Et c'est pour ça que. Et c'est pour ça que c'est vrai que quand on s'est séparés, quand tu m'as quitté.
When I left you.
When you left me, en fait, le premier truc, bizarrement, c'était pas la perte de l'amour qui me faisait peur. C'était le barrage contre la vie. Je me disais, mais qui va me protéger du monde, en fait ? Je me disais, mais si j'ai pas Johan, ça veut dire que moi, je suis en direct. Direct, il y a le monde, je suis face au monde, quoi. Il y a plus...
Y a plus de traducteur. J'étais un peu un traducteur.
Et juste après, et quelques mois après qu'on se soit séparés, j'ai pris des antidépresseurs.
Ouais.
Parce que c'était le seul moyen de pas de trouver un nouveau un blocage, quelque chose qui fasse qui mette un stop quoi.
Putain.
Ouais. Oui, parce qu'on s'est séparés en décembre Et j'ai commencé et j'ai rencontré le psychiatre qui m'a prescrit des antidépresseurs au mois de juin, un truc comme ça, six mois après. Ouais.
Ouais, c'est vrai, c'est ça. Ouais.
Toi, tu entretiens quel rapport aux gens ?
Très facile.
Ouais, toi, tout le monde t'aime. Hein. T'es joyeux, t'es lumineux. En fait, ce qui se passe, de mon souvenir, c'est que t'as une aisance, une facilité à être
tout
aimé.
Tout le monde m'aime.
Tout le monde t'aime.
Tout le monde m'aime.
Mais par contre, tu peux nourrir des colères sourdes
ouais, contre tout cas, des gens. En tout cas, à propos de ça, c'est pas vrai déjà. Parce que j'ai compris, j'ai vraiment... Comment ça s'appelle ? C'est de l'hyper... C'est une forme de... J'ai du mal à savoir où sont mes limites. J'ai compris ça avec 12 ans d'analyse. J'ai vraiment du mal à savoir où sont mes limites. Donc en fait, je suis ce qu'on appelle un... C'est comme un lion ou un phoque en parc aquatique, là, qui fait tout ce qu'il faut pour amuser le public. En fait, c'est pour ça que ça donne ce truc, c'est de l'hyper-adaptabilité. Ouais. Mais en fait, c'est pas vraiment wham.
Ouais, c'est fou.
Hein. Et c'est dur avec le temps, il faut que j'apprenne à fixer mes limites, en fait.
Ouais, c'est une obsession de plaire à tout prix.
Ah bah oui, c'est compliqué. Et en fait, le salut, c'est vraiment de ne pas se plonger là-dedans, de faire gaffe. Donc, accepter de...
Déplaire.
Oui, c'est... Voilà. Non, voilà. Donc, ça s'appelle de... Ouais, c'est un truc d'hyper-adaptabilité. C'est aussi une addiction aux autres.
Ouais,
à leur regard.
Reconnaissance.
Ouais, ça, c'est insupportable. Et tu sais, j'ai déjà rencontré des gens comme ça, et ça m'a tellement angoissé. Une fois, dans une fête, j'avais rencontré un mec qui était comme ça.
Ton double ?
Pas mon double, mais ça se caractérisait différemment de moi, mais je l'ai senti, ce truc. Et en fait, il a dit un truc qui m'a saoulé. Et du coup, je lui ai rentré dedans en mode « Waouh, ça, tu me fais chier, je suis parti à autre chose. » Tu sais, je suis passé à autre chose.
Ouais.
Et le gars n'a cessé toute la fête de me dire « Eh, mais attends, en fait, t'as pas compris. Ce que je voulais dire, c'est que... » J'étais là « Mais arrête,
me
en fait, tu
pas,
me fais chier. » Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, il parte en vrille parce qu'il était... Il l'a trop mal pris, en fait.
Ouh.
Il a dit « Ah, mais mec, en fait, il est devenu fou, en fait. Il est devenu fou. » Et moi, je me voyais... Comment dire ? Moi, je réagis pas non plus comme ça, j'ai jamais fait ça.
Ouais.
Mais je voyais ce truc chez lui, ça se caractérisait par de la violence. En fait, il était comme ça et c'était triste. C'est tellement.
Oh, il y a beaucoup d'acteurs.
C'est
navrant.
Ah oui, énormément. C'est pas du tout un. C'est pas parce que là, on dit ça, genre, moi, est touché comme ça, mais il y a énormément d'acteurs comme ça.
Ouais.
C'est un métier. Mais il faut pas les blâmer individuellement.
Non, c'est une fragilité.
C'est un métier d'une. Énorme
violence
psychologique et qui pousse et une violence psychologique et sociale et qui
bien
pousse
sûr.
À des comportements comme ça.
Complètement.
Bien sûr, qui pousse à des trucs, on appelle pas ça histrion, je sais pas quoi, ou tu sais, qui veut plaire à, tu vois, une espèce de truc comme ça là.
Oui, et pour nous
c'est
défendre aussi, on parle de notre narcissisme, de notre ego.
Rosa
mais...
vient de pleurer, hein, j'indique juste aux gens. Hein.
Ouais.
Rosa avait les yeux baignés de larmes
en, fait,
en parlant.
Non, mais je suis émue de discuter avec toi.
Waouh, la vache. Emotions. Tu sais, l'autre fois sur France Inter, il y avait Adrien Quatennens qui parlait des élections et il précisait qu'il pleurait parce que ça se voit pas à la radio. Il disait « Vous êtes émue et... ». Waouh, Rosa est très émue. Nos mains se joignent.
ce que je veux dire, c'est qu'aussi, on n'avait pas le choix,
okay,
tu vois.
Just let the emotions, yes.
Non, mais c'est-à-dire que on était obligés d'avoir une foi en nous. Enfin, tu vois, c'est un métier où t'as...
C'est hyper violent.
En fait, c'est si tu mets le doute, si à un moment, tu le fais pas, les choses. Enfin, t'es obligé de développer une foi, une croyance.
Ouais. Et du coup, une forme de...
De délire. T'es obligé de te lancer.
De te raconter une histoire.
Tu te souviens, quand on était ensemble au début, tu me disais, j'ai la chance. Enfin, tu me disais des trucs un peu comme Jim Carrey. Tu disais, je suis béni. Des trucs limite mystiques.
Ah,
de
oui,
j'ai été choisi.
Bien sûr.
Enfin, tu vois.
J'étais persuadé d'être l'élu.
Ouais, l'élu. Ouais, ouais. Et moi, je trouvais ça incroyable chez toi. Et ça m'avait persuadé de ça, j'étais persuadée que tu l'étais.
Et
c'est
non.
Vrai que, c'est vrai qu'ensuite la vie, elle est dure, elle est pleine de,
oui.
Elle est pleine d'obstacles. et c'est sûr qu'en rentrant dans les, alors après, pour toi, il y a eu un décalage, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que toi, quand t'es rentré dans l'École nationale supérieure, bah, ça a validé en fait cette foi, cette croyance que t'étais un élu, quoi. Sauf que moi, de me prendre très vite ce râteau, bon, peut-être que ça m'a permis de tout de suite
ça a construit autre
recalibrer,
chose,
quoi. Ouais, me dire, bon, bah, ça sera un autre chemin.
Ouais, ouais. Ouais.
Mais c'est
moi,
vrai.
Moi, je continue de traîner cette, je pense encore un peu, ce fantasme d'être choisi quand t'es pris au conseil, ça. Qui est venu valider ma thèse. Et ça, c'est très destructeur par la suite, parce que ça ne veut rien dire déjà. Et que, en fait, tout se construit, tout se. Voilà.
Ah ouais, mais
tout c'est... s'obtient à force de.
Mais c'était pas facile aussi pour toi, pour le conservatoire, d'arriver et d'être choisi à l'unanimité, d'être déclaré comme un génie.
Non, pas du tout à l'unanimité d'ailleurs.
Ah non, j'avais
appris.
Ah ouais ?
Enfin, sans rentrer dans les détails, on s'en bat les couilles, tu vois. Ouais. Ah non, je crois que genre au deuxième tour, j'ai divisé à 62-58, enfin un truc. Ouais, c'était Daniel.
Tu te souviens, moi je l'avais eu à l'unanimité le deuxième tour.
Ah ouais,
les deux fois.
Non, il y a plein de gens qui l'ont à l'unanimité. Moi, pas du tout. J'avais vraiment divisé.
Ah ouais.
Ouais.
Sauf que oui, t'avais Daniel qui t'avait défendu, t'avais un mentor très fort en rentrant cons, dont il a fallu aussi réussir à te détacher.
Oh oui. Yeah.
C'était ça aussi ton parcours, c'était d'avoir des maîtres que tu idéalises, quoi, complètement, et ensuite avec lesquels il faut couper le cordon. C'est vraiment. Ouais, c'est sûr, c'est des parcours.
Vivre certains trucs trop jeunes aussi, c'est pas. Ça ne sert pas forcément non plus. Il y a des étapes quand même. Moi, en tout cas, chez moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je tente de baiser les étapes, ça finit mal.
Oui, et puis c'est dur de trouver la relation juste. Évidemment que quand il y a quelqu'un qu'on aime, enfin, tu vois, quand tu rencontres un mentor, je veux dire, moi, mon éditeur, ça a été mon mentor.
Ouais.
C'est dur de trouver le... D'un coup, tu vois, le... Parce que c'est des gens, en effet, sur lesquels, tu vois, qui te... que tu sais pas... Enfin, tu vois, c'est dur d'être raisonnable, de te dire... bon, bah, cette personne, c'est pour ça que, tu vois, John Malkovich, c'est mon metteur en scène, il m'a choisi, machin. Non, enfin, en fait, quand t'as des gens qui changent ta vie, qui te désignent, qui te donnent une chance, qui te regardent, nous, derrière, c'est le moment qu'on attend tellement. Tu vois, c'est vrai que... Oui, voilà, c'est vrai qu'on est, on est dans des rapports à la vie très intenses, quoi. C'est pas... Mm-hmm. Mais bon, je dis ça, ça se trouve, il y a... Enfin... Plein de gens, tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que, voilà, je suis un peu émue parce que je t'aime beaucoup et que ça me touche que tu viennes dans le podcast et que ça me touche quand même que tu m'aies donné la liberté d'écrire le livre et de dire des trucs qui sont parfois exagérés, évidemment, mais c'était pour ce truc...
Toutes les deux grosses séparations que j'ai eues après toi dans ma vie m'ont vraiment appris ça. On peut pas batailler contre les versions différentes qu'on a eues. Voilà. Et en fait, tout le temps qui suit une séparation, pour moi, il sert, et là je le vois, il sert vraiment à comprendre le point de vue de l'autre. Pas forcément à dire c'est comme ça que je l'ai vécu, mais à te dire, ah putain, je comprends pourquoi elle a vécu les choses comme ça.
Ouais, et nous, il y a plein de trucs, cela dit, sur lesquels tu t'es dit que tu t'es reconnu et machin. Enfin, tu vois.
Oui, mais j'ai fait de la merde.
Non, mais même pas. C'est pas de la merde. Enfin, il y a des scènes sur lesquelles. Enfin, parce que moi, je trouve pas que je t'accuse tant que ça.
Non, mais tu m'accuses pas. Tu relates des trucs où c'est pas hyper glorieux, quoi. Voilà.
Bah, tu veux dire, quand je te décris comme un Rastignac qui s'élève par les femmes, c'est le premier truc que t'as dit dans le podcast.
Ouais, mais c'est vrai. Et le tout, ça me fait vraiment penser à. Comment dire ? J'ai un petit truc d'ambivalence là-dessus. Je pense que je fais passer pour... J'ai beau dos de faire passer pour féministe des trucs... Alors ça, c'est vraiment des trucs qui me font hurler de rire, tous ces défauts. J'ai beau dos de faire passer pour féministe des trucs qui, en fait, sont là pour me redorer auprès de meufs qui, en fait, m'ont appris le féminisme. En fait, un homme apprend d'abord le féminisme par les femmes. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de... C'est une évidence.
Ouais.
Puisque c'est pas lui qui subit l'impression.
Ouais.
Et du coup, moi, j'ai une petite tendance à aller lire des trucs, écouter des machins, et après faire la leçon.
Ouais.
On m'a fait qui je suis, ce qui est chaud. C'est chaud, en fait. C'est chaud. Ouais. C'est, voilà. Et bah, je suis cette personne. Et je pense qu'à cette époque, ça se traduisait comme ça. Ça se traduisait par j'aime les femmes puissantes, je nania, je new. Mais en fait, c'est un peu un... Il y a un peu un effet de piédestal. Il y a un peu une envie d'aller de femme puissante en femme puissante pour s'élever Il n'y a pas que ça. C'est jamais aussi simple, les choses. C'est plus complexe. Mais c'est un versant de quelque chose qui est une qualité. Ça me fait aller vers ces femmes-là. Et c'est cool, j'aime ça. C'est bien, ça me nourrit. Et je nourris aussi l'autre personne et je vis des trucs intenses. Mais l'autre face, un peu naze de ça, il y a toujours une face naze.
Oui, puis c'est aussi le modèle avec lequel tu as grandi. C'est que tu avais peut-être une mère plus virile que ton père.
Oui.
Complètement, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Alors que moi, finalement...
C'est même pas plus viril. Parce qu'en fait, même la virilité n'a rien à voir là-dedans. C'est plus qui drive. Ouais. Elle drive. Ouais. C'est elle qui drive.
Ouais. Mais ton père, je me souviens, il écrivait des poèmes. Oui, quelque chose de vachement plus à fleurs. Des faibles, quoi. De trucs à fleurs. Ouais, il était très précieux. Voilà.
Elle drive.
Ah oui, ta mère, c'était pas...
Et maintenant, c'est marrant, mon père, il est dans un couple où... En tout cas, c'est l'illusion que ça me donne, où maintenant, c'est plus équilibré.
Ah.
Donc, il drive un peu plus que ce qu'il faisait dans le passé.
Je pense qu'il
a eu besoin de ça pour rebondir. Pardon, c'est parti.
Oui, alors que moi, finalement, j'étais quand même dans une caricature de, tu vois, où, entre guillemets, de mes parents, le masculin et le féminin étaient assez incarnés.
Pour moi, il y avait quand même deux masculins forts leur séparation leur a permis d'affirmer ça à fond, quoi. Enfin, attention, quand on dit... Attention, je précise juste que quand on dit masculin et féminin... C'est des qualités qu'on rapporte, voilà.
Mais c'est vrai que la façon d'annuler ça,
on est né en 89, hein, ouais. Y a pas de... Voilà.
Non, mais t'inquiète, ça va. Je veux dire, les auditeurs, le nombre de bourdes de conneries que je peux balancer sur ces trucs de genre. Mais c'est vrai que...
Trigger warning, je vais parler d'urine dans deux secondes.
Tu sais que, attends, en fait, je pense que nous, le moyen de désamorcer ça quand on était ensemble, c'était aussi de tout simplement redevenir bébé. Et c'est ça que j'ai eu l'impression d'écrire dans le livre. C'est qu'en prenant des voix, tu sais, quand je dis dans le bouquin, ça, tout ça, c'est vrai. Quand je dis qu'on allait aux toilettes ensemble, qu'on faisait pipi, caca l'un devant l'autre, tu vois, je veux dire qu'il n'y avait plus aucune. Mais parce que c'est pas comme dans un couple, c'est comme des frères siamois, quoi. C'est comme des siamois. On parlait comme des bébés tout le temps. Et c'est vrai que c'était dur d'arrêter. Et même quand je te vois, chaque fois, j'ai envie de te parler en bébé, tu vois, même 10 ans après, quoi. Mais c'est vrai que ça arrive vite. Tu sais que même je l'ai mis dans mon spectacle à un moment.
Ouais.
Je parle bébé parce que je décris l'amour, tu vois. Et c'est vrai, c'est pas nous qui l'avons inventé dans Belle du Seigneur. Non. Le langage bébé, c'est
tout le monde se parle en bébé.
Oui, mais sauf que si tu parles plus que en bébé,
c'est faut faire une thérapie.
Mais quand même, on baisait. Mais on baisait.
Waouh, hyper.
Ouais, c'était chelou. En fait, notre relation... Déjà, je pense que maintenant, on parle on parle de tout ça, de domination, de soumission, mais c'est vraiment parce qu'il y a eu MeToo et que c'est notre génération. Parce qu'on repasse tout ça.
Ouais, bien sûr.
Mais nous, la manière dont on avait à le vivre sur le moment, c'était se parler en mode bébé, être fusionnel, c'est-à-dire passer... Il n'y avait pas... Enfin, on était littéralement indescotchables.
Mm-hmm.
Donc, passer chaque seconde collé l'un à l'autre, avoir les mêmes pyjamas... être assorti, passer, et même après on a eu du mal quand on était amis, on se voyait tout le temps, et ensuite c'était manger ensemble, faire des crises de bouffer 24h/24, acheter des cookies, bouffer, acheter le lait, aller dans une, dépenser beaucoup d'argent,
la bouffe,
rue des Saint-Père, traiteur, cheesecake, glace à Morino.
Attention, ça c'était pizza. Juste la période 6e arrondissement, elle a duré 3 mois.
Non, tu rigoles, tu te souviens pas quand on était partis en vacances en Corse?
Ah ouais.
On bouffait du matin au soir. On avait trouvé le truc le plus cher, on n'avait pas d'argent.
On était cons, en fait, on
claquait notre thune.
On n'avait pas d'argent. Enfin, on avait.
Ouais, on avait un peu
on
d'argent.
On avait un peu parce qu'on faisait des babysitting comme des malades.
On faisait un paquet de babysitting. Ouais,
et en fait, on claquait la thune de façon.
Bouffe.
Irresponsable, vraiment irresponsable.
Fou.
Trop jusqu'à après être dans la merde.
Ouais.
Pour des trucs d'un coup, des coups de gros resto ou des vacances dans un lieu trop cool. Comme des cons, quoi, vraiment.
Ouais, mais c'est beau parce que c'est
comme
aussi...
Comme des cons.
Finalement, c'est un truc hyper intime.
Et moi, j'ai eu des gros
rare.
Problèmes d'argent, hein, suite à ces époques.
Ah ouais,
des problèmes d'argent, pas de dette, mais de j'ai plus rien, en fait.
Bah oui, mais je pense
alors que j'aurais pu amasser, me faire un petit truc, être un peu mieux, me prendre un appart.
Oui.
Non, on dépensait comme des gens, comme des dingues.
Mais est-ce que après, les crises de boulimie que tu faisais devant moi, est-ce que tu les faisais après avec d'autres partenaires? Ou est-ce que t'étais sur des meufs plus raisonnables qui te disaient
ou seul ou je me cache
Moi la façon dont j'ai bouffé souvent c'est un truc que j'ai pu faire seul, mais c'est assez rare et propre à notre relation qu'on se soit autant ouvert.
C'est vrai que là c'était
la démesure publique.
C'est vrai que c'était la nocciolata
on achetait des pots énormes de nocciolata qu'on défonçait à la petite cuillère.
Je pense que c'était vraiment pour pas regarder le réel, quoi.
Je pense qu'on était hyper angoissés tous les deux.
Ouais, je pense que qu'on se ressemblait.
On était angoissés. On était angoissés et on n'était vraiment pas un couple en mode on fait du sport, etc.
Non, pas du tout. Battait les couilles.
Non. Mais après, on se retrouvait finalement à faire du sport parce que on n'avait pas le permis et qu'on faisait des kilos.
Non, on faisait pas de sport.
Non, mais quand on était en vacances, si on faisait un peu de vélo.
Oui, on se motivait.
Et on marchait.
Genre, on se racontait un peu des histoires. Genre, c'est un peu une retraite d'acteur pour se remettre en forme.
Par contre, ça, ce qu'on faisait, c'est quand même, ça, c'est beau, tu vois. tout le chemin à Uzès de la maison, à je sais pas combien de kilomètres, on l'a fait sous le Cagna à marcher. Ouais. Et tu te souviens, je te lisais L'être un jeune poète à voix haute.
Ouais, bien sûr. En vélo. Ouais,
non, on n'était pas en vélo.
Ah non, on était putain, on marchait.
À pied.
Ouais, bien
on
sûr,
était
ma
à pied. Oh,
putain.
On était à pied. La dame au camélia, pareil.
Génial,
je te l'ai lu à voix haute.
Génial. Ouais. Ce texte. Génial.
Ouais, c'était incroyable. Des moments de régression à deux.
Bien sûr, ouais.
En fait, j'avais pas envie que tu sois le seul à faire le bébé.
Ouais, ouais.
Je pense qu'il y avait un truc où souvent, en général,
mais
les
gens. Tu l'étais aussi, hein.
J'étais un gros bébé.
Ouais, t'étais comme ça aussi. Ouais. C'est vrai, putain, c'est marrant.
Et avec des moments, oui, où tu vas vivre dans le sixième, tu vois, vouloir des poutres apparentes. C'est vrai que c'était jamais raisonnable, quoi. C'était jamais raisonnable.
Jamais.
On s'est jamais dit, on n'a pas du tout les moyens d'habiter
jamais.
Là.
Ouais. Moi, il y avait un truc d'échapper à Ivry-sur-Seine, quoi.
Et putain,
à ce moment-là, obsession d'échapper à ça.
Et pendant longtemps, on a continué à faire des siestes ensemble. Et à un moment, c'est quand t'as été avec une autre nana après, qui est devenue une très bonne amie à moi, qui a dit stop, ça suffit, les siestes, vous arrêtez.
Ouais.
Et c'est à partir de là qu'on a arrêté
d'ailleurs,
de faire.
D'ailleurs, j'ai écouté ce truc, parce que
avec
j'ai écouté
François.
Celui de François.
Ouais.
Trop bien, d'ailleurs.
Ouais, tu vois, c'est un truc genre vraiment comme de... Ouais, les siestes, ça, dans François, je raconte comment tu suais.
Bien sûr. Beaucoup. Toujours. Enfin, ça s'est calmé un petit peu.
Ah ouais.
Et c'est ce que m'avait dit une dermato quand j'avais 18 piges.
Ça va se calmer.
J'étais allé la voir parce que vraiment j'étais là, mais c'est pas possible d'être l'être qui transpire le plus au monde.
Incroyable.
Et elle m'avait dit soit il y a une opération qui vous enlève les glandes, machin, là, qui crée la transpi, donc vous transpirez plus, mais vous évacuez beaucoup moins. C'est votre. Au moins, vous avez une qualité, c'est que vous évacuez très vite tout. Elle me dit c'est bien, c'est les gens qui suent beaucoup. Soit vous attendez. Elle a dit c'est l'âge qui fait passer ça. Et j'étais là, oh putain, mais non, sérieux meuf. Et en fait,
si.
15 ans après, oui, elle a raison, oui, ça passe un peu. Oui. Ça passe carrément même, ça se régule un peu plus.
Tu penses qu'aujourd'hui, on peut être amis?
Bien sûr.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
C'était bien de faire une pause pendant un moment, peut-être.
Oui, c'était bien, je pense. C'était nécessaire.
C'était peut-être nécessaire.
Surtout pour toi, Rosa.
Peut-être.
Je rigole.
Peut-être.
Non, mais pas du tout. J'imagine le mec qui renverse. Non, pour tous les deux, oui, je pense que c'était nécessaire, ouais.
Bah,
il y avait des trucs trop...
En fait, c'est-à-dire qu'on a eu plus de difficultés pour moi dans notre amitié que dans notre couple amoureux. Je considère qu'en fait, finalement, notre couple amoureux, on avait des engueulades, mais c'est parce qu'on a vraiment... Enfin, en fait, on a vraiment eu des obstacles. Mes parents ont divorcé. Je veux dire, on a eu des trucs bien trash qui nous sont arrivés. Et donc, mais j'ai pas de dispute sur un sujet sur lequel je me souviens, un truc. On avait des engueulades, mais parce que, tu vois, des trucs de... En fait, la plupart des engueulades, c'est parce que tu disais un truc qui devait être mal formulé ou maladroit, que je te disais, c'est con, et que tu te vexais,
oui.
Et que résultat, tu pétais un câble,
oui.
Et que là, on se mettait à hurler tous les deux. Pour moi, c'était ça, en couple, nos engueulades.
Mmh.
Mais en fait, les vraies engueulades qu'on a eues, ça a été après, quand on était amis. Ça a été parce que c'était dur de passer d'une relation amoureuse et fusionnelle à une relation d'amitié avec des bandes d'amis qui nous avaient connus ensemble et qui, pour lesquels on rejouait ce duo amoureux et fou. Et en fait, ensuite, c'était pas tellement de la jalousie ou faire de la place aux autres que de la rivalité parfois professionnelle. Où tout d'un coup, en fait, c'est comme si le fait de s'éloigner... En fait, tu sais, ça, si c'était un truc... Souvent, quand on était ensemble, on se disputait juste avant de se séparer physiquement. C'est-à-dire, tu devais aller quelque part, je devais aller quelque part, et on savait que physiquement, on serait pas ensemble.
Donc on crée une dispute pour donner les moyens
de se séparer parce que c'était tellement douloureux physiquement de ne plus être collés l'un à l'autre qu'on s'engueulait à ce moment-là. Et je pense que dans l'amitié aussi, il y a eu un truc de... où c'était dur de sortir de la fusion et c'était dur pour moi de ne pas me sentir parfois plus soutenue. Et je pense que parfois... on s'engueulait parce que je faisais tel projet, toi tel autre, ou au début quand je... Ou alors, en fait, j'attendais beaucoup de toi quand t'es venu voir le premier spectacle à la Petite Loge, t'avais eu des remarques qui étaient sincères, mais peut-être un peu maladroites, et moi ça m'avait vexée, et à ce moment-là j'avais l'impression que en fait on n'arrivait plus à communiquer, à se soutenir, tu vois, c'est vrai que c'était... je pense qu'aussi c'était compliqué pour toi parce que toute la période où j'ai vraiment galéré en tant que comédienne... en fait, c'était une période où j'avais plus non plus envie de voir personne, tu vois. Et donc, on se voyait. Je pense qu'il y a eu, des déséquilibres. Il y a eu une période où toi, tout se passait bien. T'étais dans, voilà, dans Yes Vous Aime, avec un collectif où les gens commençaient à te reconnaître dans la rue. Il y avait une vraie réussite. Et moi, c'était la période où, enfin, tu vois, je faisais des animations, des goûters d'anniversaire et je tournais dans des pubs, mais c'était pas... Et donc, d'un coup, peut-être qu'il y avait de la jalousie de mon côté. Tu vois, peut-être que j'étais jalouse, tu vois, du fait que vous ayez ce succès, que je pense que j'avais envie d'en faire partie et que j'en faisais un petit peu partie, mais pas, tu vois, de loin. Et puis finalement, là, aujourd'hui, maintenant que j'ai retrouvé aussi que je me sens mieux professionnellement et que je m'épanouis, ça se trouve, ça sera plus possible, tu vois, d'être pote et de, tu vois, d'avoir le... Et c'est vrai que la dernière fois que tu es venue me voir à la nouvelle scène, ça m'a beaucoup touchée d'entendre ton rire. Je ne savais pas que tu serais dans la salle. Et tu sais, et d'un coup, quand j'étais dans la salle, que j'ai joué, que j'ai reconnu ton rire, que je pourrais reconnaître...
Ah, c'était super. C'était vraiment génial. Franchement, les gens qui écoutent ce podcast et qui n'ont toujours pas vu le spectacle, allez-y. C'est extrêmement drôle. C'est vraiment génial. Ouais, vraiment, super.
Je vais passer au petit questionnaire de Proust.
Ok.
La qualité que tu préfères chez un homme ?
La femme.
C'est beau.
Bien sûr.
La qualité que tu préfères chez une femme ?
L'homme qui est en... Non, mais... non, peut-être pas l'homme, mais... Qui est chez une femme ? Ah, attends, vas-y, c'est intéressant. Je peux mettre 8 plombes à répondre à la question ?
Bien sûr.
Son cul. Bah, si, un peu quand même. C'est pour ça que c'est dur de dire une qualité.
Ouais.
En fait, peut-être le je dirais le cul pour résumer tout son corps.
Ah ouais, mais c'est le cul maintenant que tu préfères chez les
meufs. Non, mais c'est forcément plein de choses, une qualité.
Ouais.
Enfin, qui m'attire. Donc c'est toi une qualité. Pourquoi le physique c'est pas une qualité ?
Si.
Bah en fait, ça va être à la fois sa façon de m'aimer.
Ouais.
Non, mais j'en sais rien. Ça doit être tellement de choses, t'imagines ? Mais c'est aussi ce qu'elle.
Ce qu'elle abat, son courage.
Ce qui résiste en elle à ce qu'on... Attention, trop...
Est-ce qu'on essaie de formater
J'ai envie de me mettre une claque dans la gueule, là.
Non.
Je pense que si je m'écoutais, genre... Alors là, je vais dire un truc, mais je pense que si je m'écoutais ce podcast, j'aurais envie de me mettre une claque dans la gueule. Je pense que c'est ce qui résiste en elle à ce que, a priori, on pourrait attendre d'elle.
Ouais.
Voilà, bon, bref. Et son cul, voilà. Comme ça, au moins, ça banalisera un peu plus mon... Voilà.
Le principal trait de ton caractère ?
La gentillesse. Non, pas du tout. Le principal trait
de ton caractère. Attention à la table, chaton.
La gourmandise, voilà.
L'addiction au plaisir.
Addiction au pleasure, yes.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Leurs défauts. Je sais pas. Leur autisme, je dirais. Mais c'est ce qui a un envers relou, donc avec tous leurs défauts. Mais c'est ce qui fait que c'est des gens un peu
enfermés dans leur univers.
tu vois. Voilà, je connais pas l'autisme, donc s'il y a des gens autistes qui écoutent, il y a pas de voilà. J'ai dit ce mot par.
T'en fais pas.
Si c'est pas.
Tu n'es pas psychophobe, c'est ça, c'est pas le
psychophobe, non. Ouais.
Ton principal défaut.
Oh là là, beaucoup, énormément. Énormément de défauts. Peur des responsabilités. Peur de tellement de choses.
Peur de dire la vérité ?
Non, pas peur de dire la vérité. Principal défaut. Tellement de défauts.
Peur de faire du mal ?
tellement. Tu sais, je réfléchissais à ça, c'est marrant, hier, j'arrive pas à me coucher. Je sais, mais parfois, je fais la liste de mes vrais défauts. Je trouve que personne ne balance vraiment ses vrais défauts.
Ouais, c'est vrai.
Tu sais, c'est vrai. Ouais. Pas les trucs genre, j'accepte trop de choses et après, je me rends compte que non, ouais, ça veut dire que t'es travailleur, voilà,
oui,
tout
voilà,
va bien.
L'exigence, c'est pas un défaut.
Non. Vraiment, les vrais. Ceux qui, t'as beau les flipper dans tous les sens.
T'es pas très susceptible.
Tu vois, par
hein.
exemple, quoi ?
T'es pas très susceptible. Tu te vexes pas tant que ça, je trouve. T'es quand même.
Non, je suis bonne patte. Ouais. Mais par contre, je fais tout pour. Je suis vraiment un chien qui montre. Je suis très. En deux secondes, on peut me soumettre en, parce que je veux plaire ou des trucs comme ça. Par exemple, je suis très. On dit merde.
Manipulable.
Ouais, très manipulable. Très manipulable, très influençable, très suiveur. Je suis très suiveur. Il n'y a aucune gloire à dire que t'es suiveur. Alors,
ouais,
pour le coup,
c'est bien
t'es,
d'oser,
ouais.
Le, oui.
Ah là, vas-y, il y en a. Là, je suis très suiveur. Je suis un suiveur, je me planque. D'ailleurs, le fait de suivre.
On peut te, corrompre. Corruptible.
Corruptible. Tout qui va avec, quoi. Vraiment, je suis un Français en 40. Enfin, tu vois, non.
Ça, c'était encore un autre truc sur lequel on travaillait quand on était en couple.
Ouais,
une fois, je t'avais demandé de me défendre.
Ouais, très compliqué, très compliqué. Mais tu sais, quand je le fais dans des moments qui servent à rien. Mm. Je me prends un coup de poing dans le métro,
oui,
par un mec, parce que tu vois ce que j'ai, ce genre de truc, ouais. Voilà, donc, très, très compliqué. Donc, beaucoup de défauts, énormément de défauts. Ouais.
Toi, tu dirais que c'est quoi mon plus gros défaut ?
Ton plus gros défaut, toi ?
Ouais. Trop dur, intransigeante.
Non, parce que ça.
C'est pas vraiment un défaut.
Tu le flippes et c'est que t'es
qualité,
cool, t'es exigeante.
Non.
Tu vois, c'est compliqué les vrais défauts.
Je pense qu'en fait, parfois, je pars trop loin, quoi. Déjà, je suis paranoïaque.
Ouais, paranoïaque. Ok, ouais, ça c'est vrai.
Ouais.
T'es paranoïaque.
Ouais.
Ça, il n'y a pas de.
Y a
c'est
pas,
pas
de...
bien.
Non, c'est
un
pas
vrai
bien.
Défaut.
C'est un vrai défaut.
c'est vrai. Voilà. Mais c'est bien, tu travailles sur ta. Tu le sais. Voilà. Le fait que tu le sortes, au moins.
Ouais,
voilà,
je
ça.
Le sais, mais.
C'est ce qui sauve un peu le truc quand même. C'est
mais
que
tu
t'en
sais,
es conscient.
Tous les juifs sont paranoïaques. C'est vraiment. Je veux dire, c'est pas une excuse. Hein.
Oui, mais...
Et je veux dire, à juste titre, t'imagines si on avait peut-être été un tout petit peu plus parano.
Question de poste.
Ton occupation préférée ? La branlette ?
Voilà, ça c'est la réponse honnête. Mon occupation préférée ? Franchement.
Manger des pâtes ?
Non, mon occupation préférée c'est. Vivre des moments avec mon fils. Non, c'est devenu.
Ouais.
Mais aussi avec mes amis, avec les jeunes que j'aime, quoi.
Ton idée
Donne-toi,
du bonheur.
Tu en fais partie.
Miwan. Ton idée du bonheur ?
Mon idée du bonheur ? Une viande, un bon vin, Fabien Roussel. Vous me disiez du bonheur, franchement. Eh ben, fils, toujours.
Ouais,
c'est vrai, ça.
Bah,
en fait, ça prend une autre place, mais ça prend pas tout. C'est comme un autre truc qui est toujours là, donc il y a ça. Et jouer. Jouer des rôles de ouf que je kiffe trop jouer. Ça me met dans un état de ouf. Ce qui n'arrive pas, c'est. Par exemple, l'année prochaine, je n'ai pas de contrat. Voilà.
Tu retombes toujours sur tes pattes comme un bon
coup, oui.
Comme un chat.
Mais le message est passé quand même.
Quel serait ton plus grand malheur ?
De plus faire ce métier ? Non. Mon plus grand malheur ? Bah, je vais pas le dire, je pense que c'est évident. Du coup, j'ai pas envie de le dire.
Où aimerais-tu vivre ?
Où j'aimerais vivre ? À Marseille, j'aimerais bien.
Ah ouais, Marseille, ok.
Ouais, j'aime bien Marseille. Ouais, où est-ce que j'aimerais vivre ? Non, sinon, vas-y. Une maison... Ah ouais, non, je me fais chier, j'aime bien les grandes villes.
Ah ouais ?
Non, en fait, j'aime bien... Non, en fait, j'aime bien là où je suis.
Mmh.
J'aime bien la banlieue est parisienne. J'aime bien. Pas trop une, pas trop bruyante, un peu excentrée. Non, j'aime bien. En fait, je suis bien là où je suis.
Moi, parfois, j'ai envie de retourner dans Paris. J'ai envie de vivre dans
non.
le.
Ah
ouais.
Oh, l'angoisse.
J'ai envie de vivre dans le 12e à côté de la Coulée Verte, à côté de Grande Contrôle.
Ah ouais, non, l'angoisse. Ah, l'angoisse, maintenant, ça m'angoisserait, moi.
Ou le 20e, j'aime bien le 20e aussi.
Ah non. Y passer avec plaisir.
Mm.
J'aime pas mettre, rester à la campagne trop longtemps, ça m'angoisse. Mais par contre, être dans
la ville.
Parfois,
j'en ai marre de bagnoler. Mais par contre, je croise trop de gens que je connais à Paris, mais j'aimerais bien vivre à côté du marché d'Aligre, tu vois. J'en ai marre de la porte de... J'en ai marre parfois de Gallieni, du périph', de la Troie.
Ah, mais Romainville.
Non, mais c'est très... Non, mais c'est une terrasse, c'est trop bien là où je suis, tu vois. Et je suis juste... Je suis à Paris en 20 minutes, je suis au Opéra en 20 minutes, mais... Je me dis, si là, je gagnais beaucoup de sous, j'hésiterais entre m'acheter un petit pied-à-terre à Paris, dans le 12e ou dans le 20e.
Ça rapporte les podcasts.
Non, c'est ça. Si jamais un jour je gagnais de l'argent, et
8000 balles par épisode,
t'imagines, putain, le rêve. Et ou alors j'achèterais une maison de campagne, enfin une petite, hein, petite cabane de campagne, petite cabane.
Ah, moi j'ai trop peur, enfin bon bref, donc de toute façon j'ai pas d'argent pour acheter quoi que ce soit,
mais
donc,
t'aurais trop peur de
j'allais
quoi
dire, j'ai trop peur que si je m'achète, j'ai pas d'argent donc je vais pas m'acheter déjà, mais surtout j'aurais trop peur de m'acheter un truc, tu vois, à la campagne, si à un moment je me disais allez tiens. Et si j'avais l'argent, et genre à un moment, je débarque.
Ouais.
Et au bout de 2 jours, je me dis qu'est-ce que je fous là ?
Ah ouais ?
Ah ouais, j'aurais trop peur de ça, de ce frisson de le. La
parce
nature
représente
un. Parce
que t'es pas très solitaire. Hein.
Ouais, non, je suis pas du tout.
T'es pas du tout solitaire.
Trop alors longtemps que moi, tout je peux... seul, alors pas que... bien. Pas bien du tout.
Alors que moi, je suis tellement solitaire. Ouais, je peux vivre des mois.
Ouais.
Ah ouais, non, ma maison de campagne devant la mer en Bretagne. Ouais.
Ouais, mais c'est bien, c'est une qualité que j'espère un jour posséder.
Ouais, je sais pas. Je pense que c'est pas très très sain non plus de se décoller complètement du monde.
C'est pour ça que quand il y a eu le confinement et que mon ex m'a dit qu'on avait la possibilité d'aller à la campagne, j'ai un peu dit que c'était pour le bébé qu'elle avait dans le ventre, au cas où pour les hôpitaux. Mais en fait, je crois que c'est parce que ça m'excentrait du lieu où il y a beaucoup de gens dans un moment de merde international, m'angoisse. J'ai l'impression que je vais passer à côté d'un truc. Et en fait, même si c'est l'endroit où il se passe le plus de merde, je préfère rester. Parce que ça m'angoisse de partir et que ma vie soit peut-être déplacée à jamais, quoi.
Ouais, mais c'est tellement bien, la nature.
Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
La nature, l'odeur.
Et quand j'y vais, à chaque fois, je me dis, ah putain, c'est tellement bien.
Ah ouais.
Ouais, je sais, mais ça me...
Mais il faut être dans des endroits beaux, quoi.
Ouais, ouais,
faut pas être dans des
moment
natures déprimantes, tu vois.
Non, bien sûr.
Ouais, il y a des natures, des campagnes qui sont pas...
Ouais.
Mais si, franchement, la Corse, tu vois. Mais j'aurais jamais assez d'argent pour acheter une maison en Corse. Puis, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, l'odeur,
la
mer. Tu te souviens de la plage de Sperone où t'as pied dans l'eau?
Oui, bien sûr. Non, mais c'était incroyable. Et même ton sans vouloir dire des trucs de l'énergie des pierres et les astres et tout, mais... Ton corps te le dit, même quand t'es quelqu'un de très... qui te dit « Oh, ça va, dans 3 jours, je repars et je reviens à Paris. » Au bout de 2 jours, la façon dont tu dors, tout, ton corps, il te dit quand même que ta place, elle est bien, là. Il se passe quelque chose, quoi.
Je peux te poser une question intime sur nous?
Ouais.
Est-ce que tu trouvais que j'avais un beau corps?
Ah bah oui, oui, bah oui.
J'étais aussi complexée que maintenant par mon corps?
Ah oui, énormément. Énormément.
Question suivante. Ce que tu détestes par-dessus tout.
Ce que je déteste par-dessus tout, la méchanceté. Non, mais ce que je déteste par-dessus tout. Ah ouais, non, il y a un truc, parce que j'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps, comme ça au moins ce ne sera peut-être pas par-dessus tout, mais je ne comprends pas pourquoi. Tu sais, il y a des actrices et des acteurs qui sont interviewés. Il y a des interviews. Et en fait, la plupart dans ces interviews, on est d'accord que la plupart des actrices et acteurs qui sont interviewés, en gros, ça marche pour eux.
Ouais.
On est d'accord.
Ouais, ouais.
En gros, quand tu es au stade de l'interview, je parle des interviews,
oui,
évidemment
oui.
qu'il y a des interviews d'acteurs de théâtre, mais bon, c'est
oui.
plutôt une minorité.
Ouais.
C'est que ça marche, en gros.
Ouais.
Et on est d'accord que dans ce métier, les actrices et acteurs pour qui ça marche, c'est une extrême minorité.
Bien en fait. Sûr.
Donc ça ne représente pas du tout les gens.
Mmh.
Et en fait, ce que je ne supporte plus, c'est que ça m'intéresse de lire ou de... Moi, ça m'intéresse ces interviews, j'aime bien. Mais par contre, dans ces interviews, quand la personne commence à dire... Moi, pour choisir mes films, maintenant, je me prends vraiment plus la... Tu vois, toute théorie, après, moi, pour choisir les projets que je fais, j'ai vraiment envie de dire « Ok, stop !» Par contre, là, ne parle pas. Ne dis plus rien, car tout ce que tu vas dire après est décrédibilisé par le fait que tu ne vis pas notre réalité, en fait. On te propose des choses, tu n'as plus de problème d'argent, et tout va bien pour toi. Donc, en fait, ne donne pas des conseils sur qu'est-ce qu'il faut choisir,
ouais.
sachant que ton cul est au chaud, et ne le fais pas. On devrait même ne Alors attention, ça va faire vraiment genre censeur-man horrible. Les gens trouvent que je suis quelqu'un d'intolérant, mais en fait, c'est faux. En fait, tout ce qui suit cette phrase est faux, car pour 95% des gens de ce métier, ils n'ont pas le choix non plus de, ou la possibilité de se dire « Moi, je pense que maintenant, les rôles que je vais choisir, ça va être... » Non, en fait.
Alors, moi, je suis à
tu vois ce que je veux dire ?
Je suis d'accord avec toi.
Voilà.
Je déteste...
c'est hyper radical et c'est fait justement pour être contesté, mais voilà.
Non, non.
Ah, ça me saoule maintenant.
En fait, je suis d'accord avec toi que ce que je déteste par-dessus tout, c'est en effet aussi le discours de certains acteurs extrêmement connus et privilégiés en interview. Mais moi, c'est pas parce qu'ils disent voilà pourquoi je choisis ce rôle ou par quoi. Parce que je pense en effet que quand t'es très connu, on te propose beaucoup de choses et que tu dois choisir et certains.
Oui. Leurs raisons se valent. Hein.
Non, non.
C'est juste que le problème, c'est qu'il faut pas. Pour moi, mais il n'y a aucun problème d'y répondre d'ailleurs à ces questions. C'est juste que j'ai envie de dire, ok, à tout le monde qui écoute ou regarde ou lit cette interview et qui est actrice ou acteur, n'écoutez pas cette partie-là.
Non, moi, c'est pas ça qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est quand ils renient leur désir et qu'ils disent, je sais pas si je vais être acteur. Ça me dérange. J'ai revu récemment un interview de Léa Seydoux qui disait qu'elle savait pas si elle avait voulu devenir actrice et qu'elle sait pas si toujours elle veut l'être. Bah arrête meuf, va bosser à Franprix en fait. Enfin tu vois, je veux dire, si t'es pas sûr de vouloir, tu vois, il y a plein d'autres métiers, hein. Forme-toi, deviens conseillère en marché, enfin tu vois. Donc en fait, ça m'énerve, cette espèce de renier son désir. Alors que par contre, j'ai vu un interview de Jonathan Cohen dans Combini qui expliquait finalement quel type de comédie l'attire. Je trouvais ça assez fin. Et tu vois, et lui, il disait pas du tout qu'il avait pas voulu être acteur. Au contraire, il reconnaissait que c'était son désir le plus profond. Il parlait par contre de son sentiment d'imposture et il parlait du fait qu'il n'avait pas su l'expliquer. Donc c'était beaucoup plus... subtil, mais par contre, il reniait pas son désir. Je pense qu'en fait, les acteurs, en reniant leur désir, dénient leur tête, en fait. Dénient leur... C'est comme si c'était que... On en revient au tout début de cette discussion. Ils ne sont que dans la soumission. Que dans « j'ai été choisi sans le décider ». Et ça, pour moi, c'est très dangereux. Il faut que les acteurs expriment leur désir. Il faut que les acteurs disent...
Rosa, c'est pas une question de... Je suis d'accord, mais... Comment dire, sans vouloir victimiser les gens, mais t'as vu la précarité de ce métier ? C'est pas une question d'exprimer son désir. Il y a des gens même qui font des... J'ai lu un témoignage l'année dernière d'une jeune comédienne mais tellement géniale qui disait comment même si elle exprime son désir à longueur de journée, même si elle se bat, elle se tape de la figure à être hôtesse d'accueil.
Mais c'est pour ça que les acteurs connus doivent le faire. Non, mais moi, je te parle pas de tous les acteurs.
Mais tu veux dire que eux, ils doivent du coup alors... Ouais,
mais bien sûr. Moi, je te dis, les acteurs connus
qui rencontrent... Ils doivent au moins ça à tout le reste de ceux qui, même en l'exprimant leur désir, ils ont rien du tout.
Parce que c'est précaire, parce qu'on n'imagine pas la misère derrière, parce qu'on n'imagine pas le quotidien et les effets sur la santé mentale.
Oui, il peut y avoir une indécence à dire...
Il y a une indécence à être là, tout chaud, à Cannes, et dire, je sais pas si j'ai envie de faire ça avec la Méditerranée en arrière. Plan. C'est totalement indécent de faire ça.
Ouais,
pour
sûr,
les milliers d'acteurs qui galèrent, qui ont cachetonné comme nous en faisant les cons et qui remboursent à peine nos crédits avec ce qu'on gagne. Et on dit dans des podcasts, wouhou, ça serait bien d'avoir une maison à la mer. Pour tous ces gens qui, pour nous, sommes les petits artisans de l'ombre quoi, de cette grande industrie du rêve, et ceux qui ont la lumière.
Et c'est pour ça que je ne comprends pas, pour moi, tiens voilà, idée de podcast, interview d'actrices et d'acteurs pas connus.
C'était ce que je voulais faire au début, j'en avais parlé à Bertrand.
Ah ça c'est super.
J'avais dit à Bertrand, j'ai deux idées de podcast. J'avais dit, je l'avais appelé quand je voulais me lancer dans le podcast, parce que je sais quand même, c'est un mec qui est plutôt fort en concept. Et j'avais dit, voilà, j'ai deux idées. Ou un podcast qui s'appellera Les mecs que je veux ken. J'invite des mecs que je veux ken. Il m'a fait, ouais, c'est cool, ça me plaît, c'est quoi l'autre ? Et j'avais dit, ça sera un podcast post-MeToo où j'invite des actrices, pas des acteurs, des actrices. Et en fait, les voix sont floutées, je donne pas les noms. Et c'est que des discussions sur tous les abus et les agressions qui ont lieu dans ce métier pour les gens pas connus.
Trop bien. Excellente idée.
Et c'était pas que, évidemment, l'agression
Dilation
sexuelle.
Podcast.
Ouais. Ça peut être du rendez-vous de casting,
de la délation
aux essayages.
En ligne. Non, mais tu sais quoi ?
Sauf qu'on ne sait pas.
À un moment, je me suis dit, il faut créer un truc qui s'appelle. En fait, c'est triste d'en arriver là, c'est de la délation,
Non, pourquoi délation ?
Non, mais alors il faudrait pas citer les noms.
Non, mais même, et après, dénoncer, call out, ça s'appelle Me Too, ça s'appelle rendre service Weinstein,
faire
un livre de Ronald Farrow qui s'appelle Catch and Kill,
mais c'est pas...
Je veux dire, c'est hyper courageux de call out.
Oui, bien sûr, il y a paye ton tournage, tu vois, il y a paye ton tournage, où tu racontes des anecdotes, et en plus, je crois qu'ils sortent pas vraiment les noms, ils disent juste, voilà l'anecdote. Mais moi, ça me va, c'est juste, s'il y a des trucs, en fait, comment dire ? S'il y a des violences dues à ce métier, comment dire ?
Moi, ça me dérange pas de dénoncer. Ce qui me dérangeait, c'était l'idée que les personnes se mettent en danger par leur voix. Ce que je voulais pas, c'est qu'il y ait des comédiennes qui disent leur nom et qu'ensuite elles aient à subir les conséquences juste en venant dans mon podcast. Bien sûr. Donc, et je voulais aussi.
Comme ça, tu masques les voix, genre, tu les transformes.
Masquer les voix, transformer un peu les voix et pas dire les noms.
Non, mais à la base, moi, c'était vraiment un truc positif, quoi. C'est
en tout cas, Bertrand m'a dit, c'est mort. Il m'a dit, fais pas la deuxième idée, c'est anxiogène, ça marchera pas. Fais les mecs que je veux ken.
Bah, ça, oui, enfin, c'est pas un. En fait, ça a une utilité, un podcast comme ça, bien sûr, évidemment. Mais oui, c'est de fait un peu anxiogène parce que c'est quand même positif
de toute façon,
là, ce que
après,
tu fais.
Oui, après j'ai reçu plein d'acteurs et d'actrices et qui parlent de toute façon de ce que c'est.
Mais moi, c'était plus dans ce délire-là de faire une interview.
Est-ce que t'as déjà subi du harcèlement, toi? Enfin, sexuel, tu vois.
Moi? Ouais. Jamais. T'es ouf. Je suis un mec.
Bah non, mais il y a des mecs, il y a des comédiens qui ont. T'as jamais eu un mec qui t'a eu un geste déplacé?
Non. Non,
il y en a, ça arrive.
Ah non, je pense que j'ai plus.
Subi du harcèlement moral.
Si on veut quantifier. Tu veux dire harcèlement de mec qui a envie de moi ou de meuf qui a envie de moi? Alors de meuf, gens... jamais.
Ok.
Jamais.
Ouais. Et de mec?
C'est simple. De mec.
Pas lourd.
J'ai eu 2-3 DM un peu insistants de mec, mais je les ai bloqués en 2 secondes.
Ok.
Mais si on veut équilibrer, c'est plus moi qui, dans ma life. J'ai déjà été lourdingue avec des meufs. Ça m'est déjà arrivé d'insister par message. Oui, c'est plus moi qui ai à me remettre en question là-dessus. Donc, mais j'ai pas... moi, j'ai pas... C'est à moi de travailler là-dessus. Mais c'est pas moi qui ai subi de... Ne raconte pas d'histoire là-dessus. Et puis, quand t'es un... Il y a des histoires, attention, je dis pas qu'elles n'existent pas. Mais c'est quand même plus minoritaire dans ce sens-là. Et d'ailleurs, les mecs à qui j'en parle, des potes qui ont eu ça en DM de la part de.
Ouais, même en vrai.
Ou en vrai de la part de mecs ou de meufs. Attention, il y en a pour qui ça a amené des trucs super graves, je le sais très bien et tout. Mais il y a une vraie facilité à en rire ou à faire. ou à kéblo la personne, en fait, à tège.
Ouais.
Parce qu'en fait, ça nous arrive tellement peu, on se sent tellement pas du tout menacé par ça. Qu'il y a une facilité immense pour nous à dire c'est qui ce clown ou cette folle qui essaye de me harceler quoi. Genre on me harcèle quoi, genre on en rit tellement ça nous arrive peu.
Et du harcèlement moral de la part de professionnels du métier sur un tournage, non?
Tu veux dire
des réalisateurs?
Moi j'ai eu un agent fou, mais je l'étage, ça a duré quelques mois. Ouais, un agent fou, complètement dingue, mais il m'a fait un peu peur quand même.
Il
a harcelé des gens de mon entourage. Ça c'était un peu harcèlement quand même. J'ai eu une main au cul sur scène quand j'avais 16 ans ou 17, 16 ans d'un metteur en scène. Il m'a fait une main au cul très prolongée, vraiment un truc bien vénère, pour me replacer sur scène en me crunchant le cul, quoi. Vraiment, il m'a attrapé les fesses, il était là. Comme ça, il faisait genre passer ça pour une blague, mais il m'a chopé le cul, ça a duré 10 secondes, quoi. Vraiment, c'était long. Voilà, il m'a touché le cul, quoi. Il s'est bien servi de mon cul pour me replacer. Voilà, j'ai eu ça. Et ça, c'est marrant parce que sur le moment, j'ai dû faire on en a tous ri. Mais si aujourd'hui, je m'en souviens, alors qu'on est presque. Enfin, tu vois, on est 15, 17 ans après. T'imagines comment un événement qui, à l'époque, au moment où ça arrive, me paraît un... Ça a dû être une anecdote de soirée, tu vois, genre, il m'a attrapé le cul, sans avoir même conscience de la charge du truc de cul. Mais t'imagines les traces que ça laisse dans ta life quelqu'un touche ton corps de façon prolongée alors que t'en avais pas envie.
Bah, bien sûr.
Et ça a duré 5 secondes, et sur le coup, vraiment, j'ai dû rigoler. Enfin, j'ai vraiment dû être là, genre, bof, il est con d'avoir fait ça pour me replacer sur scène. Non. En fait, si je m'en souviens si bien, mais je me souviens même de l'ambiance, tout. Je me souviens de ma place sur scène, où c'était précisément, peut-être même pour trouver l'heure, enfin, tu vois. C'est qu'en fait, ça envoie une. Tu sais, c'est comme une note vocale ou un truc sur un montage. Quand tu mets une petite, un petit signet, un petit repère pour savoir où t'en es dans ton montage, là, tac. En fait, ça te fait un petit hop, et c'est très clair. Ça reste longtemps, quoi.
Ouais, c'est de la domination.
Ah ouais, c'est ça, en fait. Mais c'est rien. Enfin, voilà. C'est très petit. On m'a pas harcelé sur le long terme. Voilà.
Mais tu sais que, en fait, j'ai réfléchi, mais même ce prof qui était dans la masculinité toxique, ce prof de théâtre. Quand il a demandé à l'une des comédiennes de la classe de montrer ses seins et qu'ensuite moi il m'a demandé de montrer les seins dans la scène, il a pas utilisé le consentement. Hein.
Ah bah non, non mais à l'époque.
Tu vois.
Même aujourd'hui il y a encore des. Mais c'est juste que. Non, mais il n'y a pas de. Ouais. c'est pas... Ça n'entre pas dans l'équation.
Un don, un talent que tu aimerais avoir?
Ah, j'adorerais quand même savoir chanter.
Mais tu chantes bien, non?
Non, je chante comme une balle.
Ah ouais?
Non, non, ça me ferait chier.
Je t'ai jamais entendu chanter.
J'aimerais bien chanter et jouer d'un instrument.
Tu danses, mais tu chantes pas. Moi, c'était souvent moi qui chantais pour toi comme un oiseau. Très aigu.
C'est vrai. Ouais.
Comment aimerais-tu mourir?
Avec mon fils dans la main. En sachant que ma progéniture est heureuse. Voilà, c'est tout. Salut, c'est un tour pour moi.
Est-ce que t'as une devise favorite, genre un mantra, un truc que tu te répètes ou que t'as entendu, que tu trouves juste, une citation ?
Deviens plus féministe que les femmes.
Énorme.
Un mantra, aucun. Bouffe, bouffe, tant que tu peux, encore. Non, je sais pas du tout. J'en ai pas du tout.
C'est quoi les poésies qu'on lisait, C'est Neruda?
Neruda, ouais. C'est génial, Neruda. René Char, c'est génial.
Lettres, un jeune poète, Rilke.
Ouais, alors après ça c'est des lettres, mais ouais, c'est génial.
Mais il a écrit des poèmes, Rilke,
ouais,
qui
ouais,
sont
bien
incroyables.
Sûr. Il a écrit les élégies de Duino, c'est génial. Georg Trakl, tu te rappelles?
Georg Trakl, ouais, je me souviens.
Ouais, bien sûr, génial, Georg Trakl.
Je me souviens de Schwab.
Schwab, ouais.
Werner Schwab.
Ouais, Schwab. Yeats aussi, c'est génial, Yeats.
Yeats, Yeats putain, ouais. Tu te souviens de la ravissante ronde, quand même, on a fait ça.
Bien sûr, génial.
On avait quand même construit une bite en or. Hein.
Ouais, c'était trop bien.
Enfin, avec en or, avec du doré, quoi.
A big oiled cock.
Mais c'est vrai que moi, maintenant, les gens me reprochent. Ouais, dis donc, tu parles de cul, c'est trash. Les gens savent pas qu'à 20 ans, avec mon copain de l'époque, on a monté une pièce qui parlait que de sexe et qu'on a construit une bite en or géante.
Non, mais c'est pas que c'est trash, c'est que les gens, ils se disent, putain, c'est hyper intime. Tout le monde n'est pas capable de faire ça.
Ouais, et trash aussi, il y a des gens qui trouvent ça vulgaire. Il y a une nouvelle blague, je sais pas comment, je sais pas quelle chute trouver. Tu sais, je raconte que parfois, ça c'était déjà, je sais pas, quand tu fais l'amour, parfois t'as envie de faire pipi, mais c'est normal parce qu'en fait la vessie, elle est pas loin du vagin, du clitoris et tout. Et puis parfois, tu fais l'amour, puis tu fais une pause, tu vas aux toilettes, et là, t'essayes de pisser, et en fait, il n'y a rien qui coule, parce que ton sexe, il ne veut pas switcher de mode. Tu vois, il est en mode, qu'est-ce qui se passe? Genre, on fait l'amour ou... Et donc, en fait, t'essayes de dire à ton sexe, non, c'est bon, tu peux faire pipi, et tu pousses quand t'es une meuf, et il y a deux gouttes brûlantes, sortent, okay. et résultat, tu le justifies en général, parce que ça fait une heure que t'es aux toilettes, et donc tu dis à l'autre, je fais pas caca, tu vois, j'aurais fait couler l'eau, tu vois, fermé, donc ça c'est la blague, et ensuite tu remontes ta culotte après avoir fait ça, et là en général tu mets un doigt, deux doigts sur ta chatte, puis tu renifles et dis, t'essayes de checker l'odeur, voilà, c'est ça que j'essaye de raconter sur scène, c'est qu'avant de retourner dans la chambre tu checkes l'odeur de ta chatte, et que moi en général je suis en mode, oh ça va, et que t'es contente, j'ai envie de faire un sketch,
t'es contente de dire, ah ça va, je sens bon quoi,
j'aime bien ma chatte, j'aime bien l'odeur de la chatte, c'est pas qu'elle sent bon, et en fait ce que tu sais, et tu te dis, c'est une petite mousse au sexe. Ouais, tu vois, je veux dire, il y a un truc de... Mais pas salé. Enfin,
oui, oui.
Vraiment ouvert.
Non,
tu sais, ça respire. C'est...
Fruit des bois, quoi.
Ouais, légèrement acidulé, mais léger, quoi.
Ouais,
c'est
léger,
c'est...
ouais. Fruit des bois.
Fruit des bois.
Petite fraise sauvage.
Jus d'orange le matin. Et ensuite, sauf que tu réalises que finalement, tout ton visage sent la chatte. Parce que t'as pas arrêté de te toucher le nez avec. Et résultat, tu mets de l'eau sur ta tête. Tu mets de l'eau pour que le mec, il sente pas l'odeur. Et
bien
tu mets
sûr.
De l'eau, et en fait, à tous les coups, l'eau rentre dans le nez, reste coincée, te pique les yeux, et ensuite, tu
bien
sais, c'est bloqué. Et en fait, c'est comme quand t'étais à la piscine à 6 ans et que tu savais pas nager, et que d'un coup, t'as peur de couler, tu sais.
Bien
et il n'y a pas de brassard pour la vie.
Bien sûr.
C'est ça ma chute pour le moment, mais c'est pas du tout drôle. C'est un peu poétique, mais je sais pas c'est quoi les brassards pour la vie. Je sais pas. Des
tu
amis.
Vas trouver.
Ouais, je vais trouver. Enfin, pour finir, quel est ton état d'esprit actuel?
Combatif. Faut que je trouve du taf pour l'année prochaine. Donc là, j'essaye de l'être.
Merci, Johan. Je t'aimerais toute ma vie. Vous vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.